Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok. T'es prêt?
À partir de maintenant, je suis plus raciste, c'est bon. Promis. Ah,
bonjour, bonsoir, bon après-midi Internet et bienvenue dans cet épisode de podcast dédié à ma nouvelle obsession sérielle du printemps. J'ai nommé Shogun. Je suis Mimi Hegel, créatrice de contenu, autrice et commentatrice de séries télé diverses et variées. Vous pouvez retrouver mon travail partout sur Internet en suivant les liens dans la description. Et je suis aujourd'hui accompagnée de mon cher et tendre, d'une personne délicieuse, d'un homme passionné et passionnant, j'ai nommé Nodus, Valentin Sebo, bonjour.
Bonjour, c'est moi. Passionné, passionnant, en vrai je suis content.
Tout à fait, je suis passionné et passionnant.
Bah, surtout le Japon. Fin...
Bah, c'est... Alors, on va parler de Shogun ensemble, mais avant tout, on va te présenter un petit peu et parler pourquoi pas de ton rapport au Japon. Qui es-tu, Nodus? Et déjà, est-ce que je t'appelle Nodus ou Valentin dans ce podcast?
Ben, les deux me vont.
Sinon, je peux t'appeler baby.
Non, parce que... Non, vraiment non.
Ok. Anjin-san, qui es-tu?
Je suis Valentin, je suis Nodus, je suis journaliste dans le jeu vidéo, mais aussi pas que le jeu vidéo. Voilà, j'écris sur les communautés en ligne... Les trucs bizarres de l'internet. Et il s'avère également que je mate moi aussi des séries. Seulement, voilà, je n'en fais pas de podcast. Donc, je suis toujours très content de faire des podcasts sur les séries avec toi. Mais également sur les films, puisque voilà, tu me demandais mon rapport au Japon. Mon rapport au Japon, il est très simple. Connais-tu Fast and Furious Tokyo Drift?
J'ai envie de partir.
Qui a quand même pas mal forgé mon amour, ma passion, ma connaissance du pays du soleil levant, finalement.
Mais qui a aussi limité ta connaissance de ce pays à Tokyo Drift?
Non.
Disons que tu n'es pas le plus... Alors déjà, si vous voulez entendre Valentin vous parler de ce chef-d'œuvre du cinéma qui est Fast and Furious 3 Tokyo Drift, n'hésitez pas... Fast and Furious Tokyo Drift.
Soyons précis.
Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des suites avec des chiffres. On a fait tout un épisode du Film Club, le podcast cinéma que je co-anime avec Fabrice Florent tous les mois sur Tokyo Drift avec Nodus en guest. Le lien est dans la description. N'hésitez pas, l'écoute vaut le détour. J'ai envie de dire que vous ayez vu le film ou pas, c'est un beau moment de vie à passer.
Mais oui, mais comme le film est un beau moment de vie à passer.
Parfois. Et donc, tu, certes, as une passion pour Tokyo Drift, mais t'es pas le plus nippophile des gens que je connais, et encore moins le plus nippophile de tes collègues du milieu du jeu vidéo. Il y en a, bon, ils ont fait Linalco, ils ont fait japonais LV3, ils ont des opinions, ils jouent à des jeux japonais, soit de rythme, soit avec des Magical Girls,
Taiko no
Tatsujin,
évidemment.
Voilà, un énorme bisou à Pippo Mantis qu'on embrasse. Toi, t'es pas trop dans ce lore-là, t'es plutôt jeu occidental.
Ouais, alors même, je suis pas trop, enfin, j'ai même pas cette passion, je dirais, pour le Japon que certains peuvent avoir de ma génération ou de la génération du dessus parce qu'ils ont grandi avec des animés, avec le Club Dorothée, ce genre de choses. Moi, j'ai pas ça. J'aime bien le Japon et j'aime bien l'histoire du Japon, mais je l'ai toujours trouvé très compliqué à suivre et je m'y suis honnêtement jamais non plus trop intéressé.
On a quand même regardé ensemble beaucoup d'épisodes de Japon Investigation. une émission de reportage.
Ouais, tu vois, je préfère Shogun. Enfin, je...
ouais, pour comprendre le Japon, je conseillerais Shogun. Japon Investigation, c'est une émission alors, qui est sur YouTube. Mais
est-ce qu'on est vraiment en train. Oh, ça fait 3 minutes.
J'ai noté sur mon cahier
T'es
Japon
vraiment
Investigation.
En train de parler de Japon, putain,
investigation.
Oh là 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 là.
Japon Investigation est une émission de reportage à petit budget disponible sur internet, mais aussi à la télé, dans lequel un Babtou va au Japon et nous emmène dans des endroits comme par exemple des pizzerias, mais aussi voilà. Des centres commerciaux un peu random.
Voilà.
Voilà, on a regardé beaucoup d'épisodes pour avoir une vision du Japon moderne.
Bah ouais, ouais, c'est pas ce qui m'a non plus trop sensibilisé à finalement tout ce que le Japon a à offrir. Hein. Moi également, d'ailleurs, je ne suis jamais allé au Japon, contrairement à toi. On devait y aller, mais le Covid, petit ange, oui. Arrivé trop tôt et parti trop tard.
Il n'est pas parti. Hein,
il n'est pas parti. Ouais. Ouais, pas parti.
Mais effectivement, on avait pour projet d'aller au Japon en 2020. Voilà, rire du public. Et depuis, on a décidé de quitter nos emplois respectifs, donc on n'a pas les moyens d'aller au Japon pour l'instant. Mais on ira un jour, et moi j'ai eu la chance d'y aller en, je sais plus, 2014 ou 2015, pour y passer 10 jours avec ma grande sœur. C'était super, et en vrai, c'était comme dans ma tête. J'étais là genre, te hype pas trop, peut-être que ça va pas être comme dans ta tête. Et je suis arrivée, j'ai fait, non, Zobi, c'est trop comme dans ma tête, c'est trop bien.
Mais heureusement, grâce à Shogun, je peux visiter le Japon féodal. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, mon rapport au Japon, il est là. Mais on en parlera, on aura plus l'occasion d'en parler davantage pendant le podcast. Mais Shogun, c'est une série qui me donne envie, tu vois, d'aller faire des recherches, d'aller m'y intéresser et tout. Et en vrai... c'est une porte qui s'ouvre vers
un whole new world.
De fou.
Le pays du soleil levant.
Grave. L'archipel, pardon.
Bon.
Oui. J'ai juste dit archipel.
On peut juste faire des allégories du Japon en long, en large et en travers. On en fera sûrement beaucoup pendant cette discussion. Petit point programme pour ce podcast. On va vous faire toute une première partie sans spoiler pour vous parler de notre avis global sur Shogun et pourquoi pas vous donner envie de regarder. Parce que je sais que certaines personnes écoutent des podcasts de plusieurs heures avec moi dedans sur des séries qu'ils ne regardent pas. Je vous embrasse, même si je ne vous comprends pas. Donc on va faire toute une première partie sans spoiler, que vous pouvez écouter, que vous ayez lu le livre, car c'est un livre, ou non, regardez la série qui, à l'heure où on tourne, est au 4e épisode sur Disney+, ou non, et ensuite on vous fera une alerte spoiler pour discuter un peu plus en profondeur des personnages, de l'intrigue, de ce qu'on attend pour la suite. Et... petit point, qu'est-ce qu'on sait ? Moi, j'ai lu le livre parce que je n'ai aucun self-control et que entre l'épisode 3 et 4, j'ai décidé que j'avais plus envie d'attendre et j'ai lu un roman de 1200 pages qui s'appelle Shogun, livre de James Clavell.
Est-ce que tu peux nous dire en combien de temps tu l'as lu, s'il te plaît ?
Bah, du coup, une semaine, quoi. Enfin, si
non, arrête, tu mens.
J'ai regardé entre l'épisode 3 et 4.
Non, mais tu l'as lu en moins que 5 jours.
Mais
arrête.
Après, tu vois,
arrête.
Les gens... C'est comme binger des séries, je sais pas si c'est simple de faire ça, mais je fais ça. Donc oui, j'ai lu le livre, donc moi je sais ce qui va se passer, sauf si la série prend des libertés. Toi, non, et bien sûr, je vous spoilerai pas la suite, je ne voudrais pas te gâcher le plaisir, Valentin.
Merci.
Ni à vous, chers auditeurs et auditrices. Donc voilà, vous pouvez, si vous êtes spoilerphobe comme moi, naviguer en toute sécurité, pas comme Engine-san.
Engine-san à bord de l'Erasmus.
Sécurité. Et oui, oh là là.
Non, mais t'as vu comment j'ai révisé là, franchement, je suis chaud de fou.
Est-ce que tu te sens, Valentin, de résumer Shogun ?
Oui, de fou.
De présenter Shogun à celles et ceux qui ne connaissent pas.
Donc, sans spoiler. Alors, Shogun, série disponible sur Disney+, depuis quelques semaines, 4 semaines maintenant, est une série qui, dont la première saison sera composée de 10 épisodes, et qui nous parle de... j'ai noté les noms parce que pendant ce podcast, il y a beaucoup de noms, et évidemment beaucoup de noms aussi en japonais. Et pour ne pas tous les oublier ou les mélanger, j'ai mes petites notes. Donc
c'est peut-être le moment de préciser à celles et ceux qui ne sont pas familiers de tes particularités qu'en général, les noms des acteurs, les noms des personnages, c'est déjà pas ta passion.
J'ai encore confondu la semaine dernière Brad Pitt et Tom Cruise, premier degré. Mais bref.
Il y a zéro van. Donc voilà, ce n'est pas du racisme si Valentin confond deux japonais. Non. Ce serait pareil avec des blancs, vraiment.
Donc Shogun. Résumons Shogun. Alors déjà, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que ça commence sur un bateau. La série commence, t'es là, il y a un bateau. Pourquoi il y a un
adore les bateaux.
Pourquoi il y a un bateau ? Parce qu'on est en 1600. 1600, on est à l'ère Edo, au Japon. Et à ce moment-là, dans le monde, il s'avère que le Japon, ils sont un peu genre, tu vois, ils font leur petite vie. Ils font leur bail dans leur coin. Déjà, c'est une île, un archipel. Et à l'époque, il n'y a pas l'avion. Il n'y a pas
c'est très vrai.
Les gens qui veulent aller au Japon, ils doivent naviguer en bateau. Et donc, il s'avère que il y a des gens qui l'ont fait, ce sont les Portugais catholiques, qui sont actuellement au Japon et qui ont une sorte de mainmise sur la route commerciale qui les mène au Japon. Ils l'ont dit à aucun autre pays de l'Europe.
Ils veulent pas dire comment on y va.
Ils veulent pas dire.
Non, on vous dit pas la route.
Ils veulent tout le saké pour eux. jusqu'à ce qu'un certain, et c'est là que c'est intéressant,
d'avoir noté les noms.
Un certain bateau mené par le capitaine.
Non. Alors, il n'est pas capitaine, il est pilote.
Oui, c'est vrai. Alors, en plus, c'est un point important de la série.
Ah, c'est un peu, oui.
John Blackthorne, qui est joué par un gars qui... Alors, désolé, mais vraiment, il faut le dire. Il faut le dire dès le début.
On va parler de
l'acteur. L'acteur, son nom, et je ne rigole pas, hein, c'est pas un pseudo. Son vrai nom de la vraie vie, il est sorti de sa maman à l'époque. Et sur la fiche de naissance, Cosmo Jarvis.
Cosmo Jarvis.
La vie de ma mère, on dirait une attraction.
C'est peut-être un nom de scène, je sais pas. Je vais vérifier.
On dirait une attraction à Disneyland.
Genre, mais j'adorerais ma
Tu veux, on fait le Cosmo Jarvis ? Bah ouais, j'adore le Cosmo Jarvis.
C'est vraiment un héros de BD un peu science-fiction des années 80, tu vois. Donc ça marche très bien pour incarner le héros d'un roman des années 70 qui a donné une première mini-série dans les années 80 aux États-Unis avec Richard Chamberlain dans le rôle du coup de Blackthorne, qui a eu beaucoup de succès, mais alors moi j'en avais jamais entendu parler, je pense que je suis un peu trop jeune et un peu trop française, mais du coup pour un certain public c'est un renouveau Shogun de quelque chose qu'ils avaient déjà adoré.
Donc effectivement, donc Japon féodal, 1600, des bateaux. Au Japon, les Portugais catholiques sont les seuls à dealer avec les Japonais. Ils comprennent, ils peuvent discuter en japonais. Et c'est vraiment le seul intermédiaire qu'a le Japon avec l'Europe. Jusqu'à ce que Monsieur Blackthorne, dont le but était donc d'arriver au Japon, en passant par le détroit de Gibraltar, c'est ça ? Non, attends. Non. Magellan, c'est l'autre. Non, Gibraltar, c'est...
Magellan. Si vous avez cherché sur une carte Gibraltar,
moi tu crois que je participe à tes podcasts pour me faire ridiculiser sur un... Je vais me faire cancel
T'es
encore.
T'es fort à GeoGuessr et tout en plus.
Oui, ben.
Et voilà, regardez l'Angleterre, regardez le Japon, regardez où est Gibraltar et imaginez un bateau qui va d'Angleterre au Japon en passant par Gibraltar et revenez nous, voilà.
Donc, il est dans son bateau machin et au début de la série, effectivement, le bateau est en piteux état, l'équipage est. Enfin, il y a vraiment famine.
Le scorbut et tout.
Ouais, le scorbut, l'équipage, ils sont malades, ça fait des mois et des mois qu'ils naviguent. C'est le cinquième, je crois, navire. Non, si.
Ils étaient partis à cinq navires et Erasme est le seul survivant.
La flotte faisait cinq navires.
À la fois à cause des dangers du voyage, notamment le détroit de Magellan, c'est très. Il y a beaucoup de tempêtes et tout. Mm-hmm. Et aussi, donc c'est les Portugais et les Espagnols catholiques qui sont alliés au Japon. Ils sont encerclés par des navires portugais, par des navires espagnols, des navires de guerre qui peuvent les couler pour justement empêcher d'autres nations d'accéder au Japon. Donc sur cinq bateaux, il n'en reste plus qu'un. Et je crois que l'équipage, ils sont 12, un truc comme ça, tous scorbut 4000, le capitaine, il n'y a plus dedans, enfin, c'est pas la forme. Sauf John Blackthorne, qui reste relativement stock pour un mec en famine, tu vois. Tout le monde est un peu, genre, émacié, et lui, il est là, bonjour.
Imaginez une sorte de Tom Hardy, mais qui s'est pris un bus.
Non, mais arrête, déjà, il est beau, et en vrai, il ressemble à Tom Hardy.
Bref. Donc, Japon, machin, 1600 et tout, l'équipage va pas bien, et en plus de ça, lui, Blackthorne, il s'obstine de fou et son capitaine, pour le coup, lui a dit « En fait, moi, je vais m'arrêter là. Fin de tournage pour moi. Tu continues si tu veux, mais en fait, là, on a déjà perdu 4 bateaux. Tout l'équipage est mort. C'est insensé. Là, on devrait rentrer à la maison. » Blackthorne, il dit « C'est quoi ? On va quand même y aller. »
On va manger des ramen, mon gars.
Ouais, là, il mangeait plutôt des rats morts. Mais là, dans le bateau, donc Blackthorne, en fait, il va pas bien. Et ils arrivent, malgré eux, à s'échouer sur le rivage de ce qui ressemble à une île, peut-être une forme d'archipel japonais. Nani. Et donc, la série commence avec, effectivement, ce navire supposément anglais. Non,
c'est un navire hollandais.
C'est un navire hollandais, tout à fait.
Les Anglais et les Hollandais, qui, eux, sont protestants. C'est important.
Oui, c'est important de le dire. Mais...
Et donc, opposés politiquement et religieusement à l'Espagne et au Portugal catholique. Donc, c'est un navire hollandais. L'équipage est hollandais. Blackthorne, lui, est anglais. Et c'est un personnage, et ça deviendra important, qui est déjà polyglotte, puisqu'il parle anglais, il parle portugais, il parle hollandais.
Ouais.
Et peut-être qu'il va apprendre une nouvelle langue bientôt.
Ah ben là, il va, oui, tout à fait, je pense qu'il va apprendre le japonais. Donc, ce bateau arrive, effectivement, et truc super intéressant, et qui fera le début de la série, selon moi, il y a ce choc des cultures. Il y a ce choc où là on est entre tradition et modernité si tu veux. Parce que
on est entre pas se laver et se laver aussi.
T'es là, il y a des gars en armure et tout, ils sont propres de fou, ils sont là en mode naninana, je fais mes trucs. Tu vois un bateau, en plus mais la tête du bateau, c'est compliqué à vous décrire en audio, en podcast, mais dans Pirates des Caraïbes, le navire. Le Black Pearl du gars qui a les tentacules dans la barbe là. Son navire, t'as pas envie de monter dessus. Et ben là c'est pire. Et donc tu vois ça débarquer sur la côte.
Le bateau, il a un peu de la mousse et tout dessus. Quoi.
Il est pas beau.
Mais c'est un bateau armé de 20 canons
oui, tout
et
à
de
fait.
Plusieurs armes à feu de type mousquet qui est plus puissant que les bateaux japonais, puisque à ce moment-là, le Japon ne navigue pas en haute mer, ils n'ont pas sillonné le globe comme les Européens. Mm-hmm. Du coup, il y a quand même un côté, on ne voit pas souvent des bateaux comme ça. Le seul bateau comme ça, c'est le bateau des Portugais qui vient tous les ans faire du commerce.
Donc là, c'est un nouveau bateau occidental qui voit. Et donc, effectivement, les Japonais commencent à baliser un peu. Ils vont sur la plage et ils commencent à se demander quoi. Ils vont à l'intérieur du bateau, ils constatent que tout l'équipage est globalement au bout de sa vie. Et ils capturent Blackthorn et 5 ou 6 de ses hommes qui sont encore en vie. Ça doit être les seuls encore en vie.
Et donc là, vie étant une notion un peu floue pour l'état dans lequel ils sont, mais en tout cas, ils respirent.
Et donc, l'objet de la série au début va donc être ce choc des cultures où le gars débarque au Japon, il parle pas japonais, les Japonais ne parlent pas anglais. Au début, effectivement, ils ne se comprennent pas. Et en plus de ça, il s'avère que Blackthorn, qui arrive au Japon en étant donc lui protestant, contrairement au, comme tu l'as dit, aux Portugais qui sont catholiques, il arrive à un moment clé de l'histoire du Japon, puisque le Taiko est mort, et donc laisse, le Taiko c'est donc une sorte d'empereur général
c'est
suprême.
En dessous de l'empereur. L'empereur, c'est okay, il y a l'empereur, c'est le chef divin du Japon, et c'est un personnage qu'on verra peut-être dans Shogun, mais qui est en place, mais un peu, tu vois, intouchable. Et en dessous, il y a effectivement.
C'est le Elisabeth, c'est le Gabriel Attal du Japon.
Si tu veux.
Donc.
Lionel Jospin.
Donc, le Gabriel Attal du Japon vient de mourir, et donc laisse sa place à potentiellement qui va vouloir la prendre.
C'est un peu le Mélenchon de LFI, tu vois. Le jour où Mélenchon il meurt, dans LFI, ça va être Shogun. Ouais, parce que c'est le chef quand même important.
Et donc, Blackthorn doit non seulement, avec son équipage, essayer de pas se faire tuer, de se faire comprendre par les Japonais, parce que les Japonais ils balisent de fou en le voyant arriver. Mais lui, il arrive aussi à un moment où les Japonais sont en train de commencer à se taper un peu dessus, parce que y a des conflits d'intérêts, des guerres et machin. On est
aux
prémices d'une guerre civile, tout à fait. Et donc, la série, ça va être une série de. Comment dire ? Une série de relations, une série de politiques, une série de manigances de Nani Naner, et qui va s'articuler à la fois en avec des dialogues en anglais et en japonais. L'anglais, ça symbolise le portugais dans le bouquin.
En fait, personne au Japon ne parle anglais, puisqu'il n'y a que les Portugais et les Espagnols qui ont été. Mais certes, en fait, ils ont aussi une mission d'évangélisation. Ils évangélisent le Japon en y implantant des communautés catholiques et en convertissant des gens, à la fois dans un but de pouvoir... Enfin, ça donne du pouvoir d'avoir le pouvoir religieux, bien sûr, mais aussi parce que c'est leur... c'est leur long game politique, c'est de vraiment prendre possession du Japon, les Portugais et les Espagnols. Ouais. Du coup, certains prêtres ont appris, puisque ça fait quand même plusieurs décennies qu'ils sont là, à certaines personnes nobles de la noblesse japonaise à parler portugais et latin, puisque c'est aussi la langue de l'Église catholique. Donc il y a quelques personnes assez rares qui peuvent faire office d'interprètes.
Donc voilà.
Mais dans la série, pour éviter d'avoir la moitié de la série en portugais et l'autre moitié en japonais, ce qui nécessite d'avoir des acteurs qui parlent aussi les deux langues, à mon avis, il n'y en a pas mille, le portugais est remplacé par de l'anglais.
Et c'est de toute façon pas une série que vous allez pouvoir regarder en faisant à manger à côté. Il faut être concentré, non seulement parce que, à moins d'être fluide en japonais, vous aurez besoin des sous-titres, contrairement à l'anglais où parfois on peut s'en passer.
Et même en étant fluent, en étant bilingue en japonais, en fait, il parle un japonais. Vieilli, il parle un vieux japonais, un peu comme si on lisait Shakespeare dans le texte ou Molière dans le texte, tu vois, parce que ça se passe en 1600 et que on en parlera, mais les travaux de recherche autour de la série ont été phénoménaux pour une véracité historique, enfin en tout cas une crédibilité historique, refaire des costumes, des pièces uniques, etc. Mais aussi dans le japonais qui parle, en fait, c'est pas parce que t'as fait japonais LV3 que tu peux comprendre la façon très ampoulée, parce qu'en plus c'est beaucoup de nobles dont il parle. Et il y en a qui ont des accents et tout, machin, qui sont pas des choses que toi et moi, on arrive vraiment à déceler, je pense.
Non. mais donc voilà, donc Blackthorn et son équipage arrivent, se font capturer, et à partir de là, la série va démarrer. Il va, lui, ne pas se faire tuer.
Sinon, la série est courte.
Sinon, il y a peu de série. Je sais pas à quel point tu veux que je résume plus sans tomber dans
Dans le pitch, il faut quand même parler de deux autres personnages principaux qui sont Toranaga et Maliko. Donc Toranaga, si tu veux je prends la
vas-y
suite.
Pour Toranaga
donc effectivement le Taiko qui avait réussi à unir le Japon ce qui n'était pas une chose facile à l'époque et alors que c'était un paysan venu de rien etc, donc il est devenu une figure un peu légendaire. Il est mort en laissant un héritier, un fils, mais qui est trop jeune pour gouverner puisqu'il a 7 ou 8 ans au début de la série, et il a donc prévu que le royaume du Japon risquait de nouveau se déchirer à sa mort puisque son héritier était trop jeune. Donc, il a nommé avant de mourir un conseil de 5 régents qui doivent gouverner le pays d'un commun accord en attendant que son fils ait l'âge de gouverner. Et il a choisi 5 régents qui sont à la fois des seigneurs puissants, mais aussi qui ont chacun des intérêts divergents et des inimitiés. Oui. Comme ça, ils vont pas pouvoir s'unir tous contre un ou quoi. Ils vont être obligés de faire des compromis et ça va maintenir une stabilité pendant 10 ans, le temps que mon fils soit en âge. Sauf que là, le fils n'est pas encore en âge et on arrive déjà à à un point de rupture de cette stabilité puisque 4 des régents se sont alliés contre le 5e qui s'appelle Yoshitora Naga, qui est le 2e personnage principal au même niveau que Blackthorn de Shogun, qui est un seigneur très puissant issu d'une lignée ancestrale qui s'appelle les Minowara, pareil une lignée considérée comme divine, etc. Il est accusé par les co-régents de vouloir prendre le pouvoir et devenir shogun, ce qui est pareil, c'est en dessous d'empereur, mais c'est un titre très puissant et il n'y a pas eu de shogun depuis plus d'un siècle, je crois. Donc il est accusé de vouloir prendre la mainmise sur le pouvoir et renverser l'héritier. Lui s'en défend toujours. Il dit « Je ne veux pas être shogun, je ne veux que protéger l'héritier de mon cher Taiko, paix à son âme qu'il repose en paix, j'étais son ami, blabla ». Est-ce qu'il est sincère ou pas?
Is no good, il voulait pas être calife à la place du calife, peut-être.
Écoute, il dit que lui ne veut que protéger la paix et les souhaits de son ancien maître disparu avec son jeune héritier. Mais il est dans la sauce et du coup, Blackthorn se retrouve être un enjeu et un outil politique aussi, puisque une partie de ses régents sont catholiques. Donc Toranaga se retrouve avec un occidental, mais pas un catholique, et ni un portugais, qui du coup va pouvoir ouvrir une brèche dans en fait le statu quo, puisqu'on arrive à un moment où Toranaga il est à une semaine de se faire exécuter, donc il a pas beaucoup de temps pour agir. C'est un peu un coup de la dernière chance, mais le karma lui envoie ce drôle d'anglais et il décide de s'en servir aussi comme outil politique, à la fois pour l'aspect de la guerre de religion, mais aussi parce que Blackthorn a des compétences qu'ils n'ont pas. C'est un pilote apte à naviguer les hautes mers et il connaît les canons, etc. Donc il peut en plus leur apporter une puissance militaire. Et pour pouvoir communiquer avec Blackthorn, Toranaga lui associe l'une des femmes de son entourage, des femmes nobles de son entourage.
Mariko-sama.
Et oui, Lady Mariko, Mariko-sama, qui est une jeune femme qui a en plus vécu une grande tragédie. On ne sait pas exactement, mais on comprend que sa famille, elle n'a plus de famille. Et qui parle portugais et japonais.
Elle a fait,
elle est chrétienne.
Elle a fait LEC anglais à la Sorbonne, heureusement, à la Sorbonne d'Osaka, parce que elle peut parler anglais. Heureusement, parce que
entre deux petits cafés noisettes, elle a écouté en cours, quoi.
Heureusement qu'elle parle anglais quand même, parce que enfin portugais en l'occurrence, mais ouais.
Du coup, voilà le troisième personnage principal. Il y a Blackthorn, il y a Toranaga et il y a Mariko qui fait office d'interprète, mais pas seulement, puisque c'est elle qui va initier Blackthorn à toute la complexité de la culture japonaise, tout en ayant elle-même ses propres bails à gérer, ses propres ambivalences entre son rôle de samouraï, qui doit obéir à son seigneur, qui est Toranaga, son rôle de japonaise, son rôle de chrétienne catholique, et peut-être son rôle de femme aussi.
Peut-être, mais ça c'est très secondaire dans la série.
Elle est pas moche à regarder, et Blackthorn non plus. Bon.
On verra qu'est-ce qui va se passer, on sait pas.
Donc c'est ça le pitch de Shogun. C'est ce marin anglais, premier anglais au Japon, qui se retrouve au milieu d'une guerre de pouvoir.
Et alors, il faut, je pense, parler d'un truc aussi, puisque tu viens de prononcer premier anglais au Japon. Et donc Blackthorn, le personnage de Blackthorn, s'inspire d'un vrai capitaine de navire, d'un vrai pilote qui s'appelle William Adams, je crois, qui était le premier anglais à avoir mis pied au Japon. Et c'est une série qui veut pas faire de... C'est pas une comment dire... C'est pas un documentaire, on est vraiment sur de la fiction historique. Ça va se baser sur des coutumes, des vraies régions, des vêtements et des traditions qui, pour la plupart, sont vraies. Mais ce que la série va raconter, c'est de la fiction.
Oui, Toranaga n'est pas un vrai gars, voilà. Blackthorn n'est pas un vrai gars, Mariko n'est pas une vraie meuf, même s'il y a des inspirations effectivement historiques pour de tels personnages.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de Shogun? Déjà, à quel point t'étais... Alors moi, je l'avais pas vu venir comme ma série phare du printemps. Je pensais que ce serait une série HBO qui s'appelle The Regime, avec Kate Winslet, notamment, et Matthias Schoenaerts, ce qui est genre...
Je connais évidemment les deux. Hein.
Kate Winslet, c'est la dame de Titanic, Valentin.
Celle qui joue Rose?
Oui.
D'accord.
Et Matthias Schoenaerts, c'est un excellent acteur qui a notamment joué dans De Rouillé d'Os, qui est français ou belge, je sais pas.
Bah voilà, super.
Désolé.
Tu fais mal dans ta vente.
Et qui est... Je veux pas l'objectifier, mais ça fait partie de son charme.
Oui,
c'est un peu
voilà.
Le John Bernthal de nos contrées, tu sais. Il a une virilité sexy.
D'accord,
comme ça.
D'accord, je vois.
The Regime, c'est une série HBO, donc dispo sur le Pass Warner via Amazon Prime, qui est par une partie des producteurs de Succession. C'est une dystopie grinçante avec Kate Winslet. Je pensais que ça serait ma série star. Bon, j'ai regardé qu'un épisode pour l'instant, mais j'avoue que je suis perplexe. Hein.
Je
sais pas si j'aime bien. C'est très caustique, très bizarre. Et alors Shogun, par contre.
Ah bah Shogun Tonight.
Ma passion. Mais moi, je savais que ça. Enfin, j'avais pas mal de cases à cocher. C'est une série politique, historique, médiévale. Et c'est des choses que j'aime beaucoup, avec plein de dialogues, plein d'intrigues. Et aussi, j'aime bien les bateaux. Genre, j'étais obligée à regarder Master and Commander. J'ai regardé plein de vidéos YouTube sur les bateaux du 19e, du 17e.
C'est vrai que la personne aime beaucoup les bateaux. Hein.
Je me disais, bon, moi, c'est facile. Bien sûr, j'aime bien Shogun. Et j'aime bien le Japon aussi. Mais toi, c'est quoi ton avis? Qu'est-ce que t'en attendais? Et à quel point t'es hypé?
En vrai, plus je matais la série, plus ça me saussait. C'est vraiment une forme de révélation, je dirais. Je pensais pas apprécier, parce qu'en plus moi j'ai un petit grief, j'ai plusieurs petits griefs vis-à-vis de ce genre de série habituellement. J'aime pas les trucs où il y a trop de costumes, vraiment c'est con, mais là en plus désolé, vous êtes tous des samouraïs en armure et tout, ils ont des coupes de veuch, on va en parler après, mais un délire.
Un point cheveux.
Et moi ça me sort un peu du bail quand, tu vois, genre on est
faut les prendre au sérieux.
Si on est trop en mode Marie-Antoinette et tout, je suis là, bah c'est pas, désolé mais c'est une pièce de théâtre. Et en fait, en fait ça passe de fou. Donc ça c'est un truc qui moi m'a pas trop dérangé. En fait on se prend très vite au jeu. J'en attendais à la base. Tu m'as un peu vendu ça comme une forme effectivement de ce que j'en avais compris. Donc tu m'en as pas trop dit non plus, mais de ce que j'en ai compris c'était une sorte de House of Cards / Game of Thrones au Japon féodal. Et en vrai, effectivement, c'est ça. C'est beaucoup plus une série basée sur les relations humaines et sur les conflits de pouvoir et les mouvements de pouvoir et d'influence. En ça, elle fait beaucoup penser à effectivement à Game of Thrones ou à peut-être pas Succession, moi je trouve, mais un peu House of Cards. Voilà, il y a vraiment beaucoup beaucoup de politique. Et non, en vrai, j'aime trop. Le premier épisode, en fait, te met directement dedans. Et en fait, moi, je me suis attaché tout de suite à Blackthorne et à son équipage, et voilà. Et il y a ce truc qui, moi, fonctionne, je trouve, à merveille et qui fait... Enfin, qui est l'un des trucs que j'aime le plus dans la série. C'est qu'ils arrivent à retranscrire ce sentiment d'incompréhension. Tu te mets... En fait, tu vois les Japonais au début à travers les yeux de Blackthorne. Alors nous, on est sur Disney+, donc le japonais est sous-titré, mais pour Blackthorne, il avait pas Disney+. Donc
non, il avait pas pris labo.
Non, il avait pas labo, bah, il avait déjà Netflix et tout, donc galère.
Ouais, il avait tenté le VPN, mais ça marchait plus, ouais, les trois de Magellan, ça captait pas.
Et donc lui, c'est pas sous-titré. Et la série arrive non seulement bien à retranscrire cette incompréhension et cette folie de... En fait, je sais pas si je vais me faire tuer à tout moment, ou si là, ils sont en train de parler de... Enfin, tu vois, on sait jamais. Le mec est dans le flou en permanence, et il y a une peur de l'étranger, une peur de... Bah oui, une peur de...
Il y a des gens... Peur de la perte de contrôle aussi. Et puis, il y a des valeurs qui s'opposent à la fois parce qu'ils n'ont pas la même religion, mais aussi
tout à fait.
Parce que c'est culturellement tellement éloigné, que ça soit dans l'hygiène, le respect, la façon de s'adresser à autrui, qu'est-ce que c'est la fierté, l'honneur, les valeurs. Enfin, c'est de ça le deux hommes, bien sûr.
Ah bah là, il arrive dans un pays où les métros, ils sont à l'heure. Donc déjà, laisse-moi te dire que...
Les métros, ils sont à l'heure, mais si tu parles mal en réunion, ouais, faut te percer beaucoup. Donc, il faut prendre les deux, quoi.
Et il y avait un point, moi, personnellement, qui me chauffait moins dans la série, mais qui, toi, t'intéressait un petit peu plus parce que t'as quand même globalement lu... Comment il s'appelle ? Ken Follett, 113 000 fois, donc t'es plus dans ces bails-là que moi. Tous les trucs de catholiques et de protestants, et d'en fait les Portugais sont catholiques, machin et tout. Voilà, moi je m'en fous. J'avais peur que ça me déplaise un petit peu et ce soit un point rédhibitoire pour moi dans Shogun. Mais en fait, pas tant, parce que c'est bien amené et ça me fait effectivement penser au fait que, ouais. Les Japonais découvrent que non seulement les Occidentaux, ils n'ont pas tous la même religion. Parfois, ils se fritent de... Enfin, voilà. Ils s'engueulent.
Oui, ils disent, vous avez différentes sectes, quoi.
Ouais. Et je trouve ça trop bien. Et finalement, ouais, dans la série, c'est plus... Moi, je vois plus ça comme portugais contre anglais plutôt que protestant contre catholique pour l'instant. Et c'est pas un
tu
point...
Tu peux pas dissocier les deux à l'époque.
On peut pas séparer l'homme de l'artiste, c'est ça que tu dis?
Tout à fait.
Mais...
Non, mais on règne encore de droit divin, etc.
Évidemment, évidemment.
Guerre de religion veut dire guerre politique, veut dire guerre de territoire, veut dire guerre tout court finalement.
Mais ultra happé dès le début, alors que j'en attendais pas forcément grand chose. C'est une série qui, je trouve, est super soignée dans son taf de costumes, son taf de déco, même en vrai visuellement. Visuellement, je trouve ça, la photographie et tout, enfin, je trouve vraiment ça très bien.
Il y a un effet un peu vignetté sur l'image, ouais. Un peu, qui est un peu flou sur les bords et que je trouve hyper sympa et qui fait tout de suite un côté tableau et en même temps qui ajoute à ce truc d'étrangeté où Black Thorn, en fait, il a très peu de contrôle et il se laisse beaucoup porter. Enfin, ah bah... il n'y a pas le choix, quoi. Il se fait traîner, porter, etc.
Oui.
Et il y a ce côté, ouais, un peu, on dirait limite un rêve, quoi. C'est genre, parce que t'imagines. T'es en 1600.
Mais non, mais c'est un
30 ans. T'es né dans le Londres de 1570. Les gens, ils chient dans la rue, ok ? Vraiment, c'est la réalité.
Et encore, ça, c'est quand ils veulent être propres.
Oui.
Sinon, ils chient par la fenêtre.
Oui.
Et ça tombe sur les gens dans la rue.
Et t'arrives au Japon, mon gars, les gens, ils mangent du riz et du poisson cru, ils sont bien habillés, ils ont les cheveux propres. Enfin, c'est choquant.
Alors, on va parler des cheveux propres parce que. On va en reparler. On va en parler.
Ils ont des cheveux propres, ça va vraiment structurer.
Ils ont des cheveux coiffés. Je dirais pas qu'ils sont propres, tu vois, genre la façon dont c'est coiffé, on va quand même se calmer, on va en parler. Mais voilà, je me suis pris au jeu. Finalement, je suis peut-être plus attaché au personnage de Toranaga que de Black Thorn. La série veut que Black Thorn soit le héros et qu'on s'y attache et machin, mais assez vite en fait, il y a d'autres trucs, enfin des storylines alternatives et des autres enjeux de puissance, voilà, c'est ça que je cherchais, qui se jouent notamment avec Toranaga. Et en fait, moi maintenant, mon BFF, c'est Toranaga. Je l'aime, je l'aime trop. Mais déjà, c'est le seul qui a pas une autoroute ou un trou dans les veuches. Lui, ils ont
c'est faux. Il y a aussi celui qu'on aime trop, Yabushige.
Oui, Yabushige,
un de ses seconds qui a le meilleur drip.
Non, mais lui, c'est même
le
plus
mieux
un drip.
Sapé. Non, et lui, il a pas non plus l'auto. Donc,
c'est vrai.
Parce que certains. En fait, les gens ont des coiffures associées à leur rang et à leur rôle.
Le Shon Mage, tout à fait. Le Shon Mage.
C'est la coiffure.
Alors, le Shon Mage, c'est la pratique qui consistait à l'époque au Japon féodal et même encore aujourd'hui. Dans, par exemple, le sumo moderne et les lutteurs modernes, certains reprennent justement cette tradition du Shon Mage qui consistait en fait à. Tondre, couper les cheveux d'une certaine façon pour faire tenir le casque plus solidement à la tête.
Mmh.
Par exemple, lorsqu'ils ont les vaches un peu en mode, ils s'auto-calvassent, tu vois, genre, ils se mettent... Non, désolé, mais c'est réel.
Faut faire l'audio-description, c'est un peu...
Ils s'auto-calvassent pour qu'il n'y ait que les vaches sur les côtés, et ils les laissent en mode...
Ouais, ils rasent le milieu, ouais. D'où l'autoroute.
D'où l'autoroute, et ça faisait mieux tenir le casque, à skip à l'époque, bon, alors, on verra. Mais surtout, c'est devenu, après, au fil du temps, non seulement un moyen de faire tenir le casque, mais aussi un symbole de une marque de statut en fait dans la société japonaise.
Ça montre que tu es samouraï, que tu sais te battre, c'est comme porter tes épées, porter les insignes de ton
exactement.
Seigneur, ça indique ta profession et donc
mais
ton
c'est
statut
mais
dans
c'est
une
perturbant
société
au début
très rigidifié.
Au début, c'est perturbant parce qu'il y a quand même des gars, on peut poser un dessous de plat, genre on peut poser un bol dans leur veuche.
Ouais, un peu Michel Blanc quoi.
Non, mais mais genre enfin ouais, il y a c'est au début ça surprend. Mais après, on n'y fait plus gaffe. Franchement, ça va.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc d'étrangeté dans le sens où quand on pense médiéval, quand on pense Moyen-Âge, même quand on pense fantasy, on voit du médiéval occidental avec des gens qui ont aussi des dégaines de fou, tu vois, mais auxquels on est habitué. Les cheveux longs, les barbes, les chevaliers en armure, tout ça. Il y a aussi des moments où si tu prends du recul, et peut-être que si t'es quelqu'un qui est japonais et qui a jamais connu la culture occidentale, t'es là, ah ouais, c'est bizarre. Mmh. Mais pour nous, les armures de samouraï, les armures de combat japonaises de l'année 1600, c'est quelque chose qui est assez différent. Et toi et moi, on n'est pas trop spécialement fans de films de kung-fu et tout, donc on n'est pas très familier de ces visuels-là. Et oui, il faut dépasser un petit peu le visuel, mais comme tu dis, ça se fait très vite, tout comme très vite le fait qu'il parle japonais, que ce soit sous-titré, ça, tu vois, ton cerveau le remarque plus, c'est logique en fait. C'est fluide.
Mais en fait, ouais, je pense que ça le fait bizarre à Black Thorn de voir des gens qui se coiffent, tu vois. Parce que lui, il a pas l'air d'avoir trop envie de se coiffer et son équipage non plus. Hein.
Bah, il y a des points.
Mais donc par rapport au Shon Mage, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. Il y a différents types donc, de Shon Mage. Il y a, en fonction de ton statut et de ta place dans l'armée et la société, tu peux avoir donc, t'as le Shon Mage, moi j'appelle ça le dessous de plat. C'est un Shon Mage rond, un
comme
peu
la tonsure des moines,
chaussé aux moines, voilà, littéralement. T'as le Shon Mage autoroute. Ça, c'est genre, voilà, comme tu l'as dit, ils vont faire une forme d'autoroute de crâne au milieu des cheveux. Une sorte
comme une crête, mais inversée.
Voilà, ouais, exactement. Une iroquoise.
Une non-crête.
Et après, il y a mon Shon Mage, bref, c'est celui de Toranaga, notamment. Lui, en fait, ils lui ont coupé des veuches. Et les veuches qu'ils ont coupées, ils les ont réunies. Et ils les ont cirés et genre amis. Et tu vois, c'est en ça que je trouve que je pense que c'est pas propre.
Non, ça dégage.
T'as pas le Viveldop fixation béton en 1600 au Japon.
En vrai, le sébum, ça fait tenir.
Donc,
les
je sais pas si c'est du musper de taureau ou un truc comme ça ou quoi, je sais pas. Ou des algues, parce qu'ils aiment bien, genre les. Je sais pas avec quoi ça
c'est
tient.
C'est du soja fermenté, là,
mais,
le bateau.
Mais il a une saucisse de cheveux, Toranaga, et ça lui donne un drip incroyable.
C'est comme une queue de cheval, mais qui remonte vers le haut, ouais. Comme une queue de scorpion, quoi.
De fou.
Ça claque.
C'est trop, trop bien. Donc voilà, pour le petit point Sean Maguet. Je sais plus de quoi on parlait, mais...
Je sais que tu tenais, je sais que t'étais prêt, tu as beaucoup mentionné les coiffures dans cette intro, donc il était temps de faire le point Sean Maguet. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que Toranaga soit au final ton préféré, alors que t'as dit la série voudrait que ça soit Blackthorn. En fait, la série est la Shogun de 2024, met beaucoup en avant Toranaga par rapport à la fois au livre et à la première mini-série qui avait été faite dans les années 80, notamment dans la première mini-série, c'est un choix aussi intéressant et qui est assez révélateur de l'époque, ils avaient décidé de ne pas sous-titrer le japonais. Donc, en tant que public occidental, tu ne comprends vraiment que ce que le personnage occidental comprend.
Comme Blackthorn,
Et quand il parle japonais, tu ne sais pas ce qu'ils disent s'il n'y a pas Mariko pour traduire. Alors que nous, on comprend des choses que Blackthorn ne comprend pas, puisqu'on a les sous-titres sur le japonais, ce qui donne autant d'importance au storyline des personnages japonais qu'au storyline de l'occidental, ou des occidentaux, puisqu'il y a aussi quelques prêtres portugais, etc., qu'on va rencontrer. Il n'y a pas que Blackthorn et que des gens japonais autour. Mais du coup, au final, ça égalise beaucoup. Et l'acteur qui joue Toranaga, donc Hiroyuki Sanada, c'est un très grand acteur japonais, vu aussi dans beaucoup de films hollywoodiens, etc. Notamment dans Bullet Train qu'on avait vu avec...
Je me disais bien que je l'avais déjà vu. Mais en fait,
tu l'as vu dans plein de trucs.
Il a une tête, je sais que je l'ai déjà vu dans plein de trucs.
Et toujours très digne, très classe. C'est un homme sexagénaire, je pense qu'il doit avoir la soixantaine, mais qu'est-ce qu'il est cool. Et il est aussi producteur de la série. Et série est co-showrunnée par Rachel Kondo et Justin Marks. Mm-hmm. Rachel Kondo étant elle-même d'ascendance japonaise. Donc je pense que, en effet, dans cette version de Shogun, les intrigues japonaises et les personnages japonais sont autant, si ce n'est plus, intéressants et valorisés que dans les intrigues des occidentaux. Même si elles sont forcément liées, quoi.
Ouais, mais en fait, c'est ça qui... Parce que je trouve que la storyline occidentale en elle-même de juste le navire va découvrir le Japon, et voilà, machin, on les prend pour des pirates et tout, ça, c'est cool. Mais ce qui fait, selon moi, le sel de la série et qui fait que je suis tendu à chaque épisode...
Tendu.
C'est qu'en fait, les storylines des Japonais et des Occidentaux, se croisent. Et je suis limite, plus intéressé par les guerres de puissance et les enjeux japonais. Et c'est trop marrant de se dire que Blackthorn, lui, en fait, au début, il comprend pas. Et il va commencer peu à peu à comprendre que, ok, en fait, ces Japonais là qui m'ont un peu pris sous leur aile, en fait, ils sont un peu en train de se taper dessus. Il y a des moments où il se passe des bails.
Ils sont un peu en train de se servir de moi pour se taper dessus, des fois.
Oui, voilà. C'est quand les Japonais comprennent que, en fait, il y a tout ce truc au début de la série où il est considéré comme un barbare. On les appelle les barbares.
Les deux peuples s'appellent mutuellement les barbares. Puisque Blackthorn et son équipage pensent que les Japonais sont des barbares. Et les Japonais pensent que les Occidentaux sont des barbares, évidemment.
Et tu vois, enfin, ils les considèrent comme des moins que rien, ils les emprisonnent, ils vont leur jeter des tripes de poisson. Et t'imagines l'odeur.
Je pense l'odeur des gars déjà de base.
Oui, mais ouais, c'est vrai.
Ils viennent de s'échouer, en fait, il y a une forme de rudesse, quoi, dans leur accueil.
Et plus ils apprennent à se connaître, plus ils apprennent à considérer que Blackthorn n'est peut-être pas autant un barbare qu'on le pensait. Et réciproquement, Blackthorn va aussi penser que les Japonais ont des coutumes différentes, mais qu'en fait, c'est pas pour autant qu'ils sont des barbares. Et il y a ce truc de... Il est utilisé sans forcément le savoir, et donc du coup, il utilise aussi lui les Japonais. Enfin, c'est vraiment dans ce côté-là, il y a un côté House of Cards et Game of Thrones que j'aime beaucoup. C'est ces intrigues-là qui me font vraiment rester, quoi.
Ouais, la prod s'est défendue un petit peu des comparaisons avec Game of Thrones et a dit qu'elle, quitte à faire une comparaison, justement, il préférait que Shogun soit comparé à House of Cards ou à Succession, ce que je comprends pour un aspect très important qui est, c'est pas de la fantasy. En fait, c'est pas parce que c'est un monde moyenâgeux qu'on a moins l'habitude de voir qu'il y a de la magie ou des dragons. Non, c'est une série historique. Cela dit,
Je tiens juste à dire aux gens qui écoutent le podcast que je vais aller me moucher. Donc je vais couper le micro, mais il y a un risque que pendant que Mimi parle, vous entendez
ça fasse point.
Bon, voilà, bref. Mais tu peux continuer, hein,
Cela dit, honnêtement, je comprends la comparaison avec Game of Thrones. Et sans rien vous spoiler, dans l'épisode 4, il y a une grande scène de confession dans un bain chaud qui est littéralement un Game of Thrones move. Donc j'étais là, si vous voulez pas être comparé à Game of Thrones, peut-être faites pas des scènes qui sont littéralement des scènes cultes de Game of Thrones. Mais à part ça, je trouve qu'en fait, il y a peut-être un casting de personnages un petit peu moins étendu que dans Game of Thrones, où on est vraiment, je pense que saison 1, on suit 20 personnages assez assidûment.
Ouais.
Là, on suit quand même Toranaga et ses proches, ses vassaux, etc., plus Blackthorn et Mariko. Mm-hmm. Et on est assez peu avec les autres régents, donc ses ennemis. C'est pas comme si à chaque épisode, on allait passer un cinquième de l'épisode avec chaque régent pour voir son côté de la bagarre et qu'est-ce que lui défend, etc.
Ouais, ce
et
pour un bordel.
C'est 4 contre 1. Ouais. Bah, c'était un peu ça, Game of Thrones. C'est la guerre des 5 rois, tu vois.
Ah, mais je dis pas que j'ai compris tout Game of Thrones, moi. Mais, enfin, désolé, mais. Enfin, il faut dire les termes.
Oui.
Moins de cul aussi, oui, que dans Game of Thrones.
Tout à fait.
Moins de cul.
Ouais, il y a moins de scènes de sexe, même si on.
Un peu de
cul. Il y a un peu de sensualité, il y a un peu d'épisodes. Voilà. et moins de gore, mais j'aimerais bien quand même qu'on fasse un point sur le niveau de gore qu'il y a dans Shogun, parce qu'il n'est pas inexistant.
Justement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de. Enfin, je dirais pas qu'il y a pas. Enfin, il y a beaucoup de gore dans cette série.
Ouais, bah bon, c'est juste en comparaison avec Game of Thrones, tu vois, c'était vraiment genre crado, genre Oberyn Martell et tout. Mais il faut quand même dire que Shogun, c'est une série où il y a de la violence,
il y a des décapitations, il y a des choses qui se passent, il y a le seppuku, donc le harakiri, on voit jamais directement quelqu'un le faire avec
pas encore
peut-être, mais voilà.
Le seppuku, c'est le suicide rituel.
Alors en fait, j'ai fait des recherches. Le seppuku, également appelé harakiri. Non, mais en fait, c'est ce truc. Vous en avez forcément déjà entendu parler. De façon très caricaturale, de loin, c'est ce mode de suicide par éventrement.
Par auto-éventrement.
Où voilà, les Japonais prenaient un couteau ou un sabre et s'ouvraient le ventre pour plein de raisons différentes. Il y a différents types de seppuku.
Je pense que dans l'idée grand public, c'est s'ouvrir le ventre parce qu'on s'est déshonoré,
voilà,
pour
déshonoré
éviter le déshonneur. C'est plutôt mourir que de vivre dans le déshonneur, soit parce que t'as perdu une bataille, soit parce que t'as trahi ou t'as pas été à la hauteur de ton seigneur. Voilà, c'est ce côté genre « Ah, je ne peux pas vivre avec cette honte !»
Et bah, c'est ce qui se passe à un moment dans la série. Pour l'instant, on est encore dans la partie sans spoiler, donc je vais pas trop en dire, mais voilà. Il y a différents types de seppuku, et c'est pas juste je vais me mettre un couteau dans le bide et voir ce qui se passe. C'est codifié.
Bah, parce qu'on sait ce qui se passe en plus.
En plus, on sait globalement ce qui se passe. non, mais c'est codifié. T'as différents types de seppuku quand, par exemple, le père meurt avec les enfants, quand la mère meurt avec les enfants. T'as du suicide pour le bien des enfants, suicide pour le bien de la famille, double suicide avec ses variantes, suicide d'honneur. Et en fait.
Quinte flush royale du.
Voilà. Y a le suicide pour éviter la honte, ça c'est le
peut-être celui qu'on.
Le Inseki Jisatsu, pardon. Qu'on connaît.
Et du coup, on s'est dit, on va dire seppuku parce que c'est trop long, donc on va dire tous les seppuku, c'est ça.
Et c'est un truc qui, alors certes, était évidemment très répandu à l'ère Edo, enfin, au Japon féodal, mais qui est également resté. On en a vu même durant la Seconde Guerre mondiale, en 45, quand, lors de la libération, il y a des Japonais qui pratiquaient le seppuku, et encore aujourd'hui, quelque chose qui existe beaucoup moins, mais voilà. Et dans la série, effectivement, c'est pas mal présent. Et c'est tellement présent que, déjà c'est ce qui participe aussi au côté gore et machin, mais aussi à l'incompréhension de Black Thorn au début, parce que lui en fait dans sa culture occidentale et anglaise en fait, tu vas pas te mettre un poignard dans le ventre pour, en plein milieu de la guerre ou si tu crois que tu vas mourir.
Il est chrétien. Le suicide c'est un péché.
Il est protestant.
Bah chrétien protestant.
C'est vrai, oui.
Il est pas catholique, mais les protestants aussi sont globalement.
Oui, oui, oui.
Ils ont globalement la même Bible, quand même, c'est la même religion.
Oui.
Donc, avec des nuances et des variantes, ne venez pas me choper ma veste, vraiment, je ne suis pas spécialiste de la théologie. Mais il y a aussi ce truc de ces gens sacrifient leur âme immortelle et potentiellement celle d'autrui, puisque, comme tu as dit, il y a des seppuku qui peuvent impliquer d'autres personnes, comme je mets fin à ma lignée, donc je me suicide moi et mes enfants. Donc, pour lui, se tuer, c'est déjà. C'est un des péchés capitaux, impardonnables. Ils n'ont pas eu les derniers sacrements, etc. Enfin, ça va vraiment, c'est vraiment Shogun, deux philosophies de vie qui s'opposent. Et évidemment, seppuku, c'est un exemple parfait de cette opposition fondamentale entre deux façons différentes de voir le monde.
Bah, exactement, parce qu'il y a le moment où il y a un moment dans la série où il voit quelqu'un commencer à se mettre dans une position propice au seppuku. Et Black Thorn, est là en mode qu'est-ce qu'il voit, enfin pourquoi le gars il est en train de qu'est-ce que tu voulais,
pourquoi vous l'arrêtez pas, pourquoi vous n'allez pas l'aider,
c'est ça qui est bizarre en fait. Et du coup tu te mets vraiment à la place d'un Anglais qui découvre ça et tu dois effectivement un peu péter un câble quoi. Mais donc pour le point gore, effectivement c'est gore, c'est sale,
c'est pas insoutenable, mais et c'est pas à tous les épisodes ni des scènes très longues, mais il y a des scènes dures avec de la violence physique et puis c'est aussi la guerre, donc il y a des batailles, il y a des coups de sabre, il y a des canons, il y a des mousquets, il se passe des trucs,
il y a des chaudrons,
Mmh. Ah, c'est horrible, on en parlera.
Tout à fait.
Pire scène.
En vrai, moi, ça va, je trouve.
Avant de passer à la partie spoiler, puisqu'on a pas mal fait le tour de ce que je voulais qu'on se dise, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu as d'autres choses à apporter ? Je voulais qu'on parle un tout petit peu de l'aspect sous-titré. Est-ce que toi, ça t'handicape, ça te freine ce côté, bah, il faut rester concentré, je peux pas faire autre chose à côté, parce que t'as aussi un cerveau qui rebondit pas mal.
Ouais, mais je...
ça peut être intéressant pour les gens qui ont du mal à garder leur attention fixée. Toi, ça te bloque.
À titre perso, je suis pas dans la team de toute façon faire autre chose en matière de série, parce que j'y arrive pas. Même si c'est en français, même si c'est en anglais que je comprends et tout, genre juste, j'arrive pas. En fait, mon cerveau, il faut qu'il soit sur la truc à 100% quoi.
Une tâche.
Une tâche. Je suis vraiment, bah, tu sais, les hommes viennent de Mars et de Vénus. Bref. Bref, non, en vrai, non, ça m'a pas dérangé. Effectivement, c'est intéressant tout ce que tu dis sur le côté. Là maintenant, en fait, le luxe d'avoir les sous-titres sur le japonais, bah, ça nous fait comprendre tout plein de nouveaux calques de compréhension que les gens n'avaient peut-être pas
dans les années 80.
Dans les années 80, ouais. Ou même dans le bouquin, parce que dans le bouquin, tu m'expliquais que c'était écrit en phonétique japonaise.
Non. Alors dans le bouquin, c'est principalement raconté du point de vue de Blackthorn, mais pas en narrateur intérieur. Donc c'est un narrateur omniscient. Et on a quand même des chapitres qui sont du point de vue d'autres personnages, dont Toranaga, Mariko, etc. qui sont du coup qui donnent lieu à comprendre leur intériorité à laquelle Blackthorn n'a pas accès, où il y a des dialogues du coup entre deux personnages japonais, etc., même si Blackthorn n'est pas là. Mais parfois, quand c'est Blackthorn qui parle japonais ou quand c'est quelqu'un qui lui parle japonais, ils écrivent les mots en phonétique japonaise avec l'alphabet latin, bien sûr. Je pense que c'est à la fois pour nous apprendre quelques mots et pour nous rappeler ce truc d'étrangeté. Mais c'est surtout quand c'est Blackthorn qui apprend à babiller japonais, tu vois.
Ils font ça aussi dans Tokyo Drift, ils sous-titrent quelques trucs vraiment quand, par exemple, Gaijin ou Wabaki.
Gaijin qui veut dire étranger, qui est donc un mot utilisé pour désigner notamment les occidentaux, comme le héros de Tokyo Drift.
Tout à fait. Mais il y a clairement des scènes inspirées par Tokyo Drift.
Pense que l'hommage est réel.
Donc non, ce côté, pour revenir à une forme de sérieux, ce côté, ce côté sous-titré, et surtout plus que le côté sous-titré, mais le côté double langue, m'a pas dérangé. Au début, c'est un peu perturbant, mais ça participe vraiment aux émotions que la série veut véhiculer, en fait. Pour moi, ce côté tu vas devoir comprendre deux langues, c'est compliqué, c'est confus, mais c'est compliqué et confus pour les deux, pour les Japs et pour Blackthorn. Donc ils retranscrivent bien ça, et perso moi ça m'a pas dérangé plus que ça. J'ai oublié le fil de ma...
C'est bon, c'était la réponse à la question.
Et je voulais te demander, toi, du coup, t'as, parce que là, on parle beaucoup de moi, est-ce que j'ai aimé, mais toi, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce qui t'a accroché dès le début,
Tout, hein, déjà, il y a un bateau avec des cordes.
Ah oui, d'accord.
Il y a un mec qui ressemble à Tom Hardy. Et il y a des armures médiévales.
Mais
moi, je suis là.
C'est quoi ça ? Mais on est...
Non, en vrai, la série s'ouvre sur un panneau contexte qui dit 1600, au Japon, il y a les Portugais, chrétiens et tout. Et déjà, moi, j'étais là, quoi ? Il y avait des Portugais chrétiens au Japon en 1600, genre je savais pas du tout. Donc déjà, je me suis dit, trop cool, je vais apprendre des choses. Et j'aime bien apprendre des choses historiques en consommant de la pop culture. Donc déjà, j'étais vendue. Et à part ça, j'en savais rien. Je savais pas du tout de quoi ça parlait et tout. Mais quand j'ai compris que c'était des jeux de pouvoir d'un côté et une réflexion sur le fait qu'à la fin, on est tous humains et les chocs culturels de l'autre, bah, c'est tout ce que j'aime, quoi. J'aime Game of Thrones pour les jeux de pouvoir, mais aussi pour... Daenerys qui est avec les Dothraki et qui comprend pas leur culture. J'aime ces deux visions. En fait, c'est l'aspect opposition entre deux philosophies très différentes et deux façons qui sont même pas juste liées au fait qu'ils ont pas la même religion, mais c'est vraiment la philosophie occidentale et la philosophie orientale et japonaise. Cette idée que, en fait, la façon de percevoir la vie est tellement différente. La vie et le karma et qu'est-ce qui nous arrive après la mort et du coup, et c'est quoi l'honneur, c'est quoi avoir une place dans la société, tout ça. Et j'aime beaucoup voir ces deux peuples qui essayent de se comprendre et qui, oui, parfois, il y a du jugement, ils s'appellent barbares, etc. Et c'est clair que y a notamment un moment assez rigolo où les Japonais proposent un bain à Blackthorn et ils refusent parce qu'il en a déjà pris un la semaine dernière. Et vraiment, ils sont là une raison que nous ne comprenons pas.
Lui, il joue à LOL, c'est sûr. Hein. Blackthorn, il joue à LOL de fou, il joue à Smash.
Ils sont là, le pilote ne souhaite pas se laver et tout le monde est en mode... Trop bizarre.
Crasseux. Moi, dans mes notes, j'ai noté John Blackthorn, qui s'appelle aussi Cosmo Jarvis, 2 points, lui, c'est le crasseux. Et Fujisama, j'ai dit, c'est la meuf jetable qu'on a filée au crasseux.
Spoiler, du coup.
Ah, pardon, merde.
Et alors, j'ai googlé, parce que quand même, on s'était posé la question. Cosmo Jarvis, de son vrai nom, Harrison Cosmo Krikorian Jarvis.
Non, mais
il a pris son deuxième prénom et son deuxième nom, mais il s'appelle vraiment légalement Cosmo Jarvis. Bravo à lui.
Mais ouais, je te rejoins sur ce côté, on apprend des choses et en fait, ouais, bah déjà, si t'as pas idée de il y avait des Portugais au Japon, il y avait ce truc de choc de culture, de balbutiement du commerce et de la navigation et tout, en fait, moi, c'est une série qui me donne envie d'aller sur Wikipédia après, d'aller...
Ah bah, t'as plein d'onglets ouverts.
Ah bah là, j'en ai neuf. Mais ça donne envie d'apprendre des trucs sur cette époque-là. Et ouais, c'est trop bien pour moi de ce point de vue-là, quoi.
Pareil, ça m'a donné envie déjà de lire le livre, ce qui est fait. Mais il y en a plein d'autres après, parce qu'il en a fait une saga. Et d'apprendre plein de choses sur cette époque, ce coin du monde, que je connais très très peu. Donc c'est toujours pour ça que j'aime les œuvres historiques, c'est quand ça me donne envie d'apprendre des vrais trucs sur ce que les humains ont vraiment fait. Demander plus à la vie, surtout quand il y a le budget Shogun.
Je crois que j'ai rarement vu des paillettes dans tes yeux comme le jour où t'as lu Ken Follett. Attends, je l'ai. J'ai le nom. C'est les bâtisseurs. Non, avec les. Non, merde. Le temps des tempêtes. Non, ça c'est Sarkozy.
Je vous avais dit les noms, c'est compliqué,
attends.
Mais les titres aussi.
Le temps. Il y a temps dedans.
Non.
Il y a tempête.
Les piliers de la terre.
Les piliers de la terre. Bref.
Qui est une œuvre un roman de Ken Follett sur les bâtisseurs de cathédrales.
Voilà. Et il y a un moment où Mimi, elle m'a dit. Non mais là je suis en train de lire un passage sur comment les gens ils faisaient des ponts. Et en vrai ouais, genre comment tu fais un pont en fucking 1100 à l'époque là, comment
parce que la rivière elle s'arrête pas mon gars,
mais
comment
oui.
Tu le fais tenir le
et
pont.
Et t'as pas kilou tout, tu peux pas aller
non.
Prendre un petit tractopelle et tout machin.
Zéro
non.
Grue.
Et donc ouais, en vrai je sais que c'est un truc qui te fascine et si c'est votre cam aussi à vous d'apprendre. Alors c'est Shogun, c'est pas non plus une série qui a une véracité historique à 800%. Mais dans les grandes lignes, il y a des trucs qui vont vous faire tilter et qui vont vous donner envie d'apprendre et donner envie d'aller vous renseigner. Et c'est ça qui est trop bien, quoi.
Grave. C'est la fin de la partie, je pense, sans spoiler.
Ah ouais,
avant
on
de...
va pouvoir bitcher sur tous les persos, là. Ça y est.
Avant de finir, est-ce que tu veux bien, dans la grande tradition peut-être de C7, donner une note sur 10 à Shogun, qui en est sur les 4 épisodes
mais
que
j'ai
regardé.
Je peux pas, non, mais attends, mais c'est compliqué. Tu me demandes déjà de donner. Mais attends, mais en plus, non. Si je mets une mauvaise note, en plus, je suis raciste. Donc, et en plus, on est à l'épisode 4. Donc, je peux pas. Ok. Je vais quand même donner une note. Je vais dire la note. Pour l'instant, épisode 4, 1, 7, en vrai.
Ok.
J'irai pas jusqu'à.
Ouais. Je suis à 8 sur 10.
Je suis un peu 8 avec la fin de l'épisode 4, mais les 4 premiers sont un 7. On commence à arriver vers le 8 là.
Ok. Ouais. Ce n'est pas la forme finale, on est sur une pente ascendante.
Il y a une scène de cul, donc bon. Bref.
Très bien, si vous n'avez pas regardé Shogun et que vous voulez qu'on vous épargne tout spoiler, c'est le moment de se dire au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Nodus sur tout plein de plateformes, les liens sont dans la description. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast sur Shogun, parce que clairement, on va faire ça toutes les semaines jusqu'à l'épisode 10.
Ouais.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et sinon, si vous avez vu Shogun ou que les spoilers ne vous dérangent pas, restez avec nous, c'est l'heure de spoiler salement. Qu'est-ce
Allez.
Que tu as à nous dire, Valentin, sur ces 4 premiers épisodes de Shogun?
Alors, il se passe des bails. Donc, on va pas non plus tout résumer, machin, mais donc, il est arrivé... Blackthorn et donc son équipage il l'a perdu d'ailleurs, parce que lorsqu'il s'est fait capturer, les Japonais comprenaient pas et lui comprenait pas non plus le japonais, et donc ses hommes se sont retrouvés séparés de lui, Et lui, en fait, Blackthorn, il va être un peu donc, privilégié. Ils vont lui filer, enfin, d'abord prisonnier privilégié. Après, il va faire partie de faire partie du crew, en fait. C'est un peu.
Bah, il devient Hatamoto.
Oui, ça c'est plus tard. C'est plus tard qu'il devient Hatamoto. Et donc au tout début, on parlait tout à l'heure de ce chaudron là, parce que l'un des premiers contacts que Blackthorn a et que du coup par extension nous on a avec les Japonais qu'on nous présente dans Shogun, c'est des gens qui donc te jettent des tripes de poisson à la gueule et ont pris de façon random un gars de l'équipage de Blackthorn et ils lui ont dit c'est quoi, on va te mettre dans un petit chaudron, on va faire bouillir, alors un petit, on met un cubor, on met deux trois ail, du poivre, de l'origan, et ils le font cuire vivant.
Horrible scène. Et franchement un niveau de gore qui pour moi est beaucoup plus dur que des batailles, des décapitations, des machins, il y a un côté torture.
Mais il n'y a rien de visuel justement.
Si, il y a un plan où on voit la tête du gars et j'ai aimé.
Oui.
Et aussi il y a les bruits, on l'entend hurler toute la nuit et c'est des bruits de plus en plus inhumains et je sais pas, mon cerveau il aime pas tout ce qui torture notable. Et je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'il le mange, mais c'est trop cannibal adjacent, tu vois. Genre ça a activé ce même truc de « Ah non !» Et en fait, alors oui, il y a cette scène de torture, mais c'est aussi pour... En fait, ça a défini le personnage qui va devenir important de Yabushige, puisque c'est ce lieutenant de Toranaga qui décide de cette torture. Et en fait, on s'est dit dans la série, mais c'est un peu plus clair dans le livre, lui, il a une vraie fascination pour la mort, le moment de la mort.
Ouais.
Et du coup... C'est un peu son truc à lui, tu vois, de faire des morts spectaculaires et des tortures très longues comme ça parce qu'il veut saisir l'instant où l'âme bascule ou je sais pas quoi.
Ouais, il veut...
C'est pas tous les Japonais qui bouillissent des gars dès qu'ils s'échouent sur leur...
Il veut voir la lumière s'éteindre, quoi.
C'est... Ouais. Il veut entendre la lumière s'éteindre, en tout cas, parce qu'il est même pas là pour regarder.
Mais en plus, c'est trop chelou parce que dans la série, donc, il faut imaginer un village côtier, tu vois, c'est un petit village...
Un petit village de pêcheurs, ouais. Ajiro.
Ouais. Et donc tout le monde se connaît et tout le monde fait le marché, naninana. Et d'un coup, t'es là toute la soirée, t'ouvres la porte, même en fait, non, sans ouvrir la porte. Toute la soirée, il y a juste un gars de
les murs, ils sont en papier,
dans un chaudron qui fait... Et toi, tu dois manger normal, tu dois être là tranquille.
Ou tu dois, j'ai envie de dire, tu dois baiser normal parce qu'il y a quand même une courtisane qui décide que c'est le bon moment pour excitailler Yabushige et son second. Donc t'es là, parce qu'ils ont quand même mis un petit bzz dans l'épisode 1.
Mais après,
1,
si c'est son kink, tu vois, genre...
Bah il savait pas que c'était son kink, je crois, mais il a découvert.
Non, mais le fait de mettre le gars dans le chaudron.
Ah oui,
je pense que c'est une forme de king pour lui, quoi.
Oui, bah en fait, c'est un écho à ça, tu vois, c'est la petite mort. Il regarde la grande mort et la petite mort.
Mais...
Donc ça qualifie aussi ce personnage de façon très immédiate et qui le rend tout de suite intriguant, quoi.
Et bah intriguant, mais aussi c'est cool qu'on parle de Yabushide, parce qu'on va pouvoir en parler un peu plus longtemps. Moi je l'ai pas aimé au début, enfin évidemment c'est l'un des persos préf.
T'as pas aimé le mec qui fait bouillir un gars?
Mais non, mais en fait il est vendu comme un méchant et évidemment c'est à l'antagoniste clair. Il a un drip, alors visuellement, mais il faut le décrire, mais il a, on dirait, des plumes de corbeau. Il a une veste en plumes de corbeau. On dirait du look légendaire dans Diablo.
Il a une double manche en plumes noires.
Il a une
son emblème doré dans le dos et non, tout. Il a un look vraiment reconnaissable. Même parmi les seigneurs et les puissants, c'est clairement le mieux sapé.
Alors, c'est clairement le mieux sapé, ouais. Mais tu vois, parmi tout... Enfin, il est à la limite une dégaine de Yakuza. Moi, tu me le mettrais dans un Yakuza aujourd'hui, tu vois, je suis là en mode, ça ne me choque pas. Et donc au début de la série lui il est vendu clairement comme un méchant et va s'installer ce truc un peu de ce conflit entre, parce que donc c'est lui qui va être chargé à un moment de transporter Blackthorn d'un point à un autre pour l'emmener notamment à Osaka je crois,
où se trouve Toranaga
et en fait on va se lier, alors peut-être pas d'amitié mais ouais si en fait moi je me suis un peu lié d'amitié avec Yabushide. Il y a tout ce moment où il cherche encore un petit peu à se tuer parce que donc Blackthorn il est ligoté, il est machin. À un moment Yabushide il tombe d'une falaise et Blackthorn veut aller le récupérer avec une corde mais on lui interdit, donc du coup quelqu'un tombe d'une falaise,
le Rodriguez,
oui voilà, ah oui,
le pilote espagnol Rodriguez,
on parle de Rodriguez aussi, bref. et donc Yabushide ah bah j'ai mal noté, c'est Yabou. D'accord, moi très bien. Mais désolé, hein, je suis désolé, je tiens à m'excuser officiellement. Voilà. C'est bien Kaiji Yabushige.
Kashigi Yabushige.
Mais j'ai écrit comme un chien, j'ai oublié le S et tout là. Bon bref. Bref, désolé.
Tu peux l'appeler Yabou. Dans le bouquin, il l'appelle Yabou des fois.
Bon, bah écoute, donc voilà. Et donc, il y a Vasco Rodriguez qui tombe d'une falaise. Et Black Thorn veut aller le sauver avec une corde. Et en fait, Yabushige et ses hommes lui disent « Bah non, frérot, tu vas pas du tout descendre avec la corde, là. » Et du coup, bah, Black Thorn, il dit « Bah très bien, bah, c'était malin, bah, fais-le toi-même. »
« Vas-y, si t'es un homme.
Bah, » si t'es un homme. Et il y a tout ce truc de « Ouais, bataille de couilles, de « En fait, non, je vais y aller, je vais le faire. »
Et Yabushige, il manque de ce seppuku dans la mer.
Exact, parce que tu comprends pas. Et Miskin, il tombe et tout, il se prend un caillou, il est païmbe, il y a des vagues dans la gueule. Faut imaginer, c'est pire que la Bretagne, hein, là-bas, les côtes du Japon. Et c'est pas le Mont-Saint-Michel, quoi. Et donc, il descend et il manque de crever et tout machin. Et Black Thorn, il l'aide pas. Et Black Thorn, il l'espère.
Il peut pas, il a pas de corde.
Il espère limite que le mec meurt.
Ah, oui, il est là, t'as bouilli mon pote hier. Ouais. Tiens, crève.
Et en fait, il meurt pas. Et il monte. Et quand il remonte, il y a cette scène que moi j'ai beaucoup aimé où Black Thorn, il lui fait un salut parce qu'il commence à comprendre. Là, ça faisait déjà quelques jours qu'il était au Japon.
Ça s'incline beaucoup, quoi.
Ouais, il est là en mode.
Il commence à comprendre que c'est comme ça qu'on dit bonjour, quoi.
Ouais, et du coup, quand Yabushige remonte, Yabushige le regarde en mode ah, t'as vu, je l'ai fait. Et lui, il s'incline en mode bah, j'ai pas réussi à te tuer, mais bravo, quoi. Mm. Et au fil du temps, quand on comprend, quand les Japonais commencent à comprendre déjà que c'est pas juste un barbare. Et quand ils comprennent que Black Thorn peut être une clé de voûte et un atout à utiliser non seulement contre les Portugais, mais aussi contre les autres Japonais dans le cadre de la guerre.
Les autres régents,
ouais. Yabushige, en fait, il est à ce moment-là, il passe selon moi un peu plus dans le côté des gentils. Et en vrai, je l'aime bien. Quand tu comprends un peu plus ça, c'est ouais ce qu'il veut faire. Enfin ouais, je l'aime bien. C'est un bon gars.
C'est pas anodin que ce soit toutes les deux notre personnage préféré et celui de beaucoup d'une bonne partie du public, et je pense que c'est volontaire dans l'écriture. Yabushige, c'est le personnage le plus nuancé, le plus ambivalent, peut-être parce que il est à la fois ennemi entre guillemets de Black Thorn, très cruel, ennemi des Occidentaux. Alors lui, il est pas du tout dans le truc de devenir chrétien et tout.
Ils s'en bat les couilles.
Vraiment, nous, on fait comme on a toujours fait, ok. On se tape dessus, on a des épées, on se coupe des trucs. On meurt, on ressuscite. It's good, tu vois. C'est la voix du samouraï. It's okay. Mais il est aussi second de Toranaga, donc allié de Black Thorn. Mais il est aussi en train de jouer sur les deux tableaux, puisqu'il a prêté allégeance à Ishido, le chef du conseil des quatre, du coup, qui est l'ennemi de Toranaga. Parce qu'il y a Bushige, il se dit comme ça, peu importe qui gagne, je ressors en top. Et c'est d'ailleurs le principe de l'épisode 4, dont on pourra parler plus en détail.
Tout à fait.
Mais du coup, c'est un personnage qui est tout en nuances de gris, parce qu'il est à la fois ennemi, ami, respectable, détestable, fier, et en même temps, il est capable d'admettre quand il fait des conneries. Dans l'épisode 4, il dit « bah je vais mourir, en fait. Enfin, oui, je vais mourir, ça y est, on a perdu, on va mourir. »
C'est un loupard gentil, quoi.
Ouais, donc il a ce côté loupard voyou. Et puis, cet aspect intrigant de fascination pour la mort, et de, tu vois, il demande à son neveu de lui faire un poème, de lui improviser un poème sur la mort de l'homme. Donc il y a aussi un côté, il est cultivé, il y a quand même un certain raffinement. Donc c'est un mec tout en nuance, quoi. Je l'aime trop.
Ouais. Ton nuance, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as raison.
Tu veux qu'on fasse un petit tour des personnages pour voir un peu ce que t'as à dire des persos principaux.
Bah on va déjà avant tout parler de Vasco Rodriguez.
Ok.
Parce que Vasco Rodriguez, mais ma star. Lui, alors donc en gros Vasco Rodriguez. Donc imagine t'es Black Thorn. T'arrives avec ton bateau, c'est là, et c'est tout ton équipage, il se fait capturer. Toi, tu dois essayer de comprendre les Japonais, il y a un gars, il se fait bouillir, c'est la hesse de fou. Mm-hmm. C'est vraiment ultra ghetto. Et là, donc en plus, c'est ghetto pour comprendre, parce que vous parlez pas la même langue, donc il faut faire venir un interprète. D'abord, ils font venir un interprète qui est catholique, et donc c'est à ce moment-là aussi qu'on comprend que, par exemple, le mec qui est catholique, il traduit pas forcément comme il devrait traduire les mots de Black Thorn, justement parce qu'il a un intérêt avec les Japonais. Et vient ce gars, Vasco Rodriguez, qui lui est en gros le mec installé au Japon. C'est le Portugais qui deal avec les Japonais.
C'est un pilote espagnol qui travaille pour les Portugais. Mais l'Espagne et le Portugal sont alliés, donc
c'est vrai. Normal. Bref, donc c'est l'Espagnol qui deal avec les Japonais. Et il vit sa best vie, mais le gars, ça fait 10 ans, il fait semblant d'aimer les sushis et le truc fermenté là, et en échange, on lui coupe pas la tête. Bah.
Alors, c'est pas exactement ça son métier.
Son métier, c'est de naviguer sur les mers et d'être cool.
Et d'être cool. Bien sapé et un peu sexy.
Mais de fou, il dort dans des hamacs et tout, mais je l'aime trop. Et il s'en bat les couilles. Vraiment, il y a Black Thorn qui lui dit mais comment tu fais pour. Il y a un moment, cette scène où ils sont dans le bateau, et Black Thorn lui dit comment tu gères le fait de ne pas pouvoir contrôler, tu vois, le fait de te laisser porter et tout. Mmh. Et lui, il est là, mais je m'en bats les couilles, mais laisse-toi porter par le truc, tu verras et tout. Et
oui, il l'initie aussi à cette philosophie japonaise du karma, du cycle de la vie. C'est Mariko dans l'épisode 4 qui dit, je crois, on vit, on meurt, à part ça, on ne contrôle absolument rien, donc autant
tout à fait,
lâcher prise, tu vois.
Tout à fait.
Donc c'est aussi une initiation par une voie occidentale à, en fait, ça marche pas comme ça ici. Tranquille.
Et ce personnage, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est... je trouve qu'il est... Enfin, au début, je l'aimais pas. Parce que je trouve qu'il avait un peu la grosse tête, mais au final, il est ouais, je trouve il est
très... Je crois que t'as dit qu'il était sapé comme un jongleur.
Ouais, non, mais ouais, c'est...
Il a un sarouel un peu, quand même.
Il a une dégaine à me vendre du shit, garde reine. Mais au-delà de ça, genre, il est gentil. Et surtout, c'est... On a l'impression, c'est en fait quand on le voit dans la série, il amène de la sûreté, il amène de la sécurité, parce que c'est quelqu'un qui comprend le portugais, qui parle anglais, et on peut s'y raccrocher. Tout comme on peut se raccrocher à Mariko lorsqu'elle apparaît, puisque c'est la seule qui va parler anglais avec Blackthorn, et du coup ça amène un petit peu ce sentiment de ouais, là à ce moment-là de la série, on sait où on met les pieds, on a l'impression qu'on est à peu près safe, quoi. Mmh. Et non moi Vasco,
ce qui est intéressant, parce que Rodriguez est aussi un ennemi de Blackthorn. Ah bah ouais. Et même à la fin des Japonais, puisque le but des catholiques c'est de coloniser, de vraiment de posséder le Japon. Mmh. Et il pense d'ailleurs qu'il le possède déjà, ce qui va vexer 2-3 personnes comme Toranaga, par exemple,
unilatéral, hein, vraiment.
Oui, ils ont pas prévenu les Japonais, hein, ils ont juste décidé, mais ils sont en train de, parce que c'est quand même un des enjeux, ils ont des bases militaires, notamment à Macao.
Tout à fait.
Où ils sont en train d'entraîner des soldats, y compris des Ronin, donc des samouraïs qui ont perdu leur maître ou qui n'ont plus d'allégeance, pour envahir et diriger le Japon, vraiment, pour mettre l'église catholique à la tête du pays, comme ils l'ont fait dans d'autres contrées.
Ouais.
Donc c'est aussi une vraie menace. Et en fait, Rodriguez, il est dans ce camp-là, puisqu'il est espagnol, catholique, qui travaille pour les Portugais. Mais c'est aussi un allié de Blackthorn, ne serait-ce que par le fait qu'ils sont tous les deux occidentaux, mais aussi tous les deux pilotes, navigateurs,
oui.
Et qu'ils sont tous les deux doués, en plus. Donc il y a à la fois un respect mutuel, et ça les protège aussi, ces compétences-là.
Oui.
Donc il y a aussi ce côté, en fait, humainement, j'ai envie d'aller boire une bière, ils ont envie d'aller boire des bières ensemble, politiquement ils sont opposés, religieusement ils sont pas alignés, mais ils sont aussi deux étrangers au bout du monde, c'est différent.
Deux inconnus,
deux anonymes, et pourtant, donc ils se serrent aussi les coudes dans, Blackthorn et Rodriguez, ils savent que le poulet rôti c'est bon, tu vois, avec le poisson cru ils en ont un peu marre, quoi, donc ils ont toute cette culture commune. C'est ça qui fait, je pense, qu'on... Et puis il est marrant. Il a un peu une gouaille et
oui,
tout,
non,
comme Yabushige, tu vois. Il est...
Oui, de fou.
Il a une big dick énergie, quoi.
Il a ce truc de... Ouais, il a de la couleur, je trouve, comme perso. Et d'ailleurs, ouais, il faut qu'on parle un peu aussi... tu m'y as fait penser en parlant là à l'instant de... en gros, il y a des... Oui, c'est une expression que j'ai trouvée très bien. Blackthorn, comme Rodriguez, ils ont des atouts et des compétences qui les protègent. Tu vois, genre, il y a ce moment dans la série, là, je crois que c'est dans l'épisode 4 qu'on a vu, là, le tout dernier. En gros, le deal, c'est que donc Blackthorn, au début, est prisonnier. Il va être de moins en moins prisonnier parce qu'il y a un moment, il va sauver le cul des Japonais quand même à bord d'un bateau, et il va prendre la barre. On va lui couper ses cordes, et il va prendre la barre, et il va réussir à sauver l'équipage japonais et donc Toranaga. Ce qui fait que Toranaga va être super reconnaissant et tout. Il va le nommer
Atamoto.
Et donc après, le deal, c'est...
Il le nomme Atamoto pour l'évasion d'Osaka, surtout. Parce qu'il lui a permis de s'évader d'Osaka, où Toranaga était factuellement prisonnier.
Oui.
Avec beaucoup de courbettes et de... Mais bien sûr, vous pouvez vous circuler à l'intérieur de la forteresse,
oui.
Mais en vrai, Ishido, il était là... Et il voulait lui bloquer le passage, y compris par la mer.
Et bah, c'est
grâce à et Blackthorn, et Rodriguez, et les Portugais, et tout ça...
Ça donne cette scène incroyable. Il y a une scène de bagnole, mais c'est des bateaux. Mais il y a une scène de...
Ça drift ?
Non, mais ça drift. Mais évidemment que ça drift ! T'as vu, le bateau, il passe dans un mouchoir de poche ! Il y a un moment où vraiment, il y a un combat de bateau, où justement, Rodriguez conduit un bateau, et Blackthorn conduit l'autre bateau. Enfin, pilote, puisque c'est comme ça qu'on dit, quoi. Et il y a un moment où il se colle à des cailloux pour que Blackthorn soit obligé de percer sa coque, en fait, avec les cailloux. Et Blackthorn, il s'en bat les couilles, il est là en mode non, vas-y, je vais y aller aussi, et on verra qui va lâcher en premier. C'est vraiment deux voitures, désolé, on y revient, mais comme dans Fast and Furious, il y a cette scène où deux voitures foncent l'une vers l'autre, et en fait, dans Fast and Furious 2, il y a toujours ce truc de qui va arrêter en premier.
Oui, il y a un peu un combat de coucougnette.
Et la scène.
Mais il y a aussi un respect, tu vois. Rodriguez, au final, il laisse passer Blackthorn. Il est là, ça fait chier, tu mérites, tu vois.
En vrai, il laisse pas passer.
En vrai, il le laisse passer. il donne pas le coup de barre, le coup de barre qu'il enverrait sur les rochers. Et après, il fait genre, ah non, non, mais il m'avait déjà dépassé parce que du coup, les Portugais, ils l'engueulent, genre, mais pourquoi tu l'as pas coulé, machin, il est là, non, non, mais il avait déjà la place. J'ai pas eu le choix, chef, j'ai rien pu faire.
J'étais déjà engagé, voilà. Prio à droite, bon.
Ouais, ouais, j'avais mis le clignot, oh, zut, il... ah non, quoi, il... oh non, il s'en est sorti. Mais bon, c'est pas grave, hein.
Et donc, il y a tout ce truc où, effectivement, donc, au début, Blackthorn est considéré comme un pirate, parce qu'en fait, il débarque avec un bateau sur lequel il y a 20 canons, donc c'est compliqué.
Et parce que c'est vrai, sur la route en venant,
parce que c'est vrai, oui.
Ils ont pillé, ravagé des zones catholiques.
Et les Japonais, enfin, en fait, donc, les Portugais, et donc Rodriguez également, à un moment, vont tomber sur le journal de bord de Blackthorn, et dans ce journal de bord, il est écrit texto, qu'en fait on veut piller, enfin on veut se rendre au Japon, et en fait c'est des corsaires quoi, c'est des pirates. Et oui. C'est ce qui prouve que c'est des pirates, alors que lui, Blackthorn, il se fait passer pour un marchand. Et les Japonais, en fait, ben, Toranaga, il est tellement, comment dire, il est tellement reconnaissant de ce que Blackthorn a fait pour lui, qu'il a accès à ces bouquins-là, et il sait que c'est un pirate, enfin désolé, mais c'est le secret le moins bien gardé. Et il est là en mode, ah là 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 là, Sumimasen, ça va me prendre beaucoup de temps à traduire, je vais pas, peut-être que bon, on verra. Et donc, le deal, c'est qu'il est plus prisonnier. Maintenant, Blackthorn, il est à Tamoto. Ce qui fait qu'on lui file une maison, on lui file un salaire. On lui file 240 à coup, coucou, coucou. On lui file une maison et tout. On lui file une femme, on lui file une courtisane qui s'appelle Fujisan.
C'est pas pareil. Les courtisanes, c'est les travailleuses du sexe. Comme on a vu la femme en rouge là dans l'épisode 4.
Ah.
Et elles sont aussi éduquées à la musique, la danse, etc.
Yes.
Les concubines, c'est pas l'épouse officielle, en gros ta femme est ouais. concubine, et tu peux avoir une femme, une épouse et plusieurs concubines, et elle a un rôle de gestion du foyer et de veiller à tous tes besoins, mais aussi beaucoup d'intendance et tout. Courtisane, c'est elle habite pas chez toi, la courtisane, généralement, mais elle vient le soir où tu vas la voir, quoi.
Et donc le deal, c'est que voilà, donc maintenant il est à Tamoto et il a sa petite maison.
Il a une zouze, il a une maison.
Il roule en scénic, il a trois gosses. Enfin voilà.
Ouais,
quoi,
il a la voiture de fonction.
Il est installé. Et le deal, c'est que lui, s'attendait pas à rester aussi longtemps et à s'installer, parce que une fois qu'il arrive à sauver, enfin à faire que Toranaga s'échappe et qu'il arrive à sauver le groupe de Toranaga. Et qui devient Tamoto, on lui file une maison, machin et tout. Lui, il s'attendait à pouvoir retrouver son bateau et son équipage.
Toranaga lui avait dit.
Voilà, et vraiment, le deal, c'était, bah, moi, je t'aide à faire ça. Maintenant, tu me refiles mon bateau et moi, je me casse, je me taille au Nashav, c'est terminé.
Bah, il a envie de retourner à Londres, quand même. Hein.
Et en fait,
mentionnons quand même qu'il a une femme et deux enfants.
Ouais, alors.
C'est pas très présent dans son esprit.
C'est pas très présent. Bah, surtout que. Bah, tu vois, t'as capté, tu vois ce que je veux dire.
En vrai, là-dessus, il y a un passage que j'aime bien dans le bouquin où il dit qu'en gros, comme de par son métier de navigateur où il passe énormément de temps en mer, pour lui et pour beaucoup de marins, leur famille, c'est plus comme une histoire qui se raconte, tu vois. Genre avant de s'endormir ou quand il doit veiller, il s'imagine qu'est-ce que fait ma femme, qu'est-ce que font mes enfants en ce moment, mais au final, il passe tellement peu de temps avec eux qu'il les connaît pas. Enfin, tu vois, il passe plus de temps en mer qu'avec sa famille, donc ça peut expliquer aussi pourquoi, en fait, il est habitué à pas être avec sa femme et ses enfants, donc il est pas en mode j'en parle tous les 4 matins, tu vois, c'est son taf de pas être là.
Et ils ont pas les visios et tout, il en parle vaguement, mais ouais.
Ouais, peu de visio. Ils ont des pigeons.
Peu de visio à l'époque. Mais, et donc le deal, c'est que voilà, donc lui, en gros, maintenant à sa maison et tout, il s'attendait à pouvoir récupérer son bateau, mais en fait, pas
MDR.
Vraiment. Le deal, c'est que tu vas nous aider à comprendre comment fonctionnent les bateaux. En fait, toutes ces connaissances de la marine anglaise, du maniement des canons et du maniement des bateaux, le deal, c'est qu'il doit les enseigner aux Japonais, donc à Toranaga en l'occurrence, et ses équipes. Et ce qui fait d'ailleurs l'objet de l'épisode 4 où on les voit manipuler des canons, et les Japonais qui voient les canons du bateau hollandais, ils pètent un câble.
C'est les meilleurs canons que ceux auxquels ils sont habitués, et surtout ils sont beaucoup plus fiables.
Ils sont précis, fiables et tout, et donc
ils tirent loin.
Et parce que c'est un peu compliqué d'ailleurs tout le côté armement dans la série, parce que tu vois fatalement des gens avec des sabres, parce que c'est aussi une marque de le samouraï porte toujours son sabre sur lui. T'as aussi des flingues, des mousquets, t'as aussi des canons, t'as des arcs. Il y a beaucoup d'armements différents. T'as des mecs à cheval, des mecs à pied. Et donc, c'est un atout quand même considérable pour les Japonais de savoir manier ce genre de canon. Et voilà. Et en gros, à terme, pour l'instant, le gars, il est en stage. Il est en CDD de 6 mois au Japon pour faire une flotte, une marine à Yabushige. C'est le deal pour l'instant.
Ouais, alors franchement, t'as bien pigé les enjeux. il y a des petites nuances qui sont que à la base il lui avait demandé d'entraîner des soldats aux tactiques militaires européennes, mais en fait lui il est marin, donc c'est lui qui dit bah je ne peux pas vous apprendre des tactiques de soldats. Oui. Tu vois, il commence à raconter une bataille et Mariko elle dit non mais gars, me raconte pas une bataille, qui était même pas un truc, il est là mais j'ai pas fait de bataille en fait, moi je suis pilote.
Il raconte Waterloo miskin, enfin
ouais il est là 1515 Marignan, tu vois, donc bon. C'est un petit peu daté en effet au Japon à ce moment là et d'ailleurs Yabushige le dit, ils ont de la poudre à canon et des mousquets, des armes à feu depuis plusieurs décennies parce que les Japonais les ont amenés, donc il y a pas besoin de faire la base de comment ça marche la poudre et tout, pardon, parce que les Portugais entre autres les ont amenés. Mais ils ont pas de marine, comme tu le dis, ils ont pas de flotte et ils ont peu de canons, et les canons des Portugais ne sont pas aussi performants que ceux de l'Erasme, qui effectivement leur montre que ah, il y a un coup à jouer. Et c'est un peu, ça fait partie des trucs où Yabushige il joue un peu toujours solo, et en tout cas il prépare toujours 1000 coups différents de ok, je suis team Toranaga, mais si Toranaga il perd, je suis team Ishido, mais si machin, tu vois.
Et du coup,
son ambition à Yabushige, c'est de devenir le premier seigneur des mers japonais. Et effectivement, en fait, il dit à Blackthorn, tu vas m'apprendre à me faire une marine, mais c'est pas forcément pour Toranaga. Tu vas m'apprendre à moi à me faire une marine. Et en fait, le jour où j'ai une marine avec des bateaux comme le tien,
Toranaga,
on verra. J'espère qu'il sera sympa avec moi, quoi. Donc chacun joue aussi son propre jeu, à son propre destin, ses propres ambitions, et c'est vraiment chouette, je trouve.
Exactement comme dans un House of Cards ou un Game of Thrones là-dessus. Et oui. C'est... Tu as forcément routé pour une personne ou une autre, et c'est un atout de fou d'avoir ce gars-là qui t'apprend à manier les bateaux et les canons, parce que j'ai trop hâte de voir comment ça va évoluer de ce point de vue-là. J'ai hâte de voir le moment, enfin je sais pas si dans la série et dans la saison 1 on va le voir, mais j'ai hâte d'avoir le moment où les Japonais qui ont pas eu l'info des canons vont avoir l'info des canons.
Bah, ils ont déjà vu des canons, ils savent que les canons ça existe.
Ouais, mais pas ces canons là, quoi.
Le premier Japon. La réaction à la fin de l'épisode 4.
Oui, tout à fait.
Peut-être un des moments gore auxquels tu pensais d'ailleurs, parce que.
Oui, c'est vrai que c'est un peu gore ce moment-là.
Ouais, des bonnes tripasses, quoi. Ouais, ouais.
Bah, il y a donc un moment, donc, durant l'apprentissage, durant le moment où Blackthorn enseigne aux Japonais l'utilisation des canons, pour vous faire dans les grandes lignes, il y a, en gros, Toranaga. Je vais résumer comme si j'avais 5 ans, parce que j'ai 5 ans. Toranaga, il a un N+1. Le N+1, il lui dit, frérot, là maintenant, faut que tu rentres, machin et tout, je vais inspecter. Et Toranaga, il fait, ah non, parce que là, on a le... Mais non, mais regarde mes très belles armes. Là, on a le barbare qui est en train de nous enseigner les canons, tu verras, c'est
déjà,
très bien.
C'est Yabushige, c'est pas Toranaga.
C'est Yabushige, putain.
Vas-y, je ferai la version. Bon, bref. Restez avec Valentin, je vous fais la
en
version
gros,
au propre après.
Yabushige. À un moment, il y a un gars qui vient l'emmerder. Et du coup, Yabushige, il dit au gars, mais attends, on va gagner du temps, tranquille, passe la nuit, et demain matin, je te fais une démonstration de mes super canons que là, l'anglais, il est en train de m'apprendre à utiliser, tu verras, dinguerie, mon ref. Le lendemain matin, il fait la démonstration, et là, il y a Nagakado qui est le neveu de... Non.
C'est le fils de Toranaga.
C'est le fils de Toranaga, ouais.
C'est Omi, le neveu de Yabushige, qui a l'autoroute sur la...
Oui, tout à fait.
Sur le crâne, et qui, lui, est très stratège. Très Littlefinger. Oui. Très... Ah là là, ce serait dommage si quelqu'un faisait ça.
Eh bien, il hijack les canons pour tuer les Japonais qui étaient venus inspecter les armes de Yabushige, sans avoir demandé la permission à qui que ce soit. Hein. Il y a juste un moment de...
Oui, c'est comme si tu vas avoir un entraînement militaire et d'un coup, c'est toi qui te fais tirer dessus, tu vois. Ils sont là en mode, bah, en fait, c'est sur vous qu'on va tirer. T'es là, quoi ? Et bon.
Ça
va être très vite.
Pure scène. Et c'est la scène qui m'a vraiment hook à la fin de l'épisode 4 et qui commence à nous faire partir un petit peu dans un délire Game of Thrones Noce pourpre.
Ouais.
Désolé, j'ai trop mal décrit. Tu vas m'en vouloir.
Non, mais c'est aussi pour c'est l'occasion de voir si t'es au clair sur les enjeux, notamment à Osaka avec les différents régents et tout. Et le fait qu'Yabushige il joue sur les deux tableaux, c'est compliqué. Et le fait que Toranaga, on sait jamais exactement tout ce qu'il a prévu. Tu vois, il a toujours 8 coups d'avance, il fait sa vie. Ça peut rendre les choses un peu confuses. Donc là, ce qui se passe, c'est que Toranaga, il n'est pas là. Et venant d'Osaka, il y a cette délégation, effectivement, qui est envoyée par... Comment il s'appelle Ishido. Donc Ishido, l'ennemi, le chef des quatre régents, l'ennemi de celui qui est en gris, qui a des soldats en gris, et qui est l'ennemi principal de Toranaga, qui veut le faire tomber. En fait, tu sais, Yabushige, il joue sur les deux tableaux. Mm-hmm. Donc il avait promis des trucs à Ishido aussi.
Oui.
Ishido, il envoie des gars pour dire... Mm-hmm. Bah, t'as quand même vachement l'air de travailler pour Toranaga, là, non ? Tu vas nous suivre à Osaka, il y a le patron qui veut
voir.
Et lui, il sait que s'il va à Osaka, Ishido va lui dire « Fais-toi seppuku ». Parce qu'en fait, tu m'as trahi, tu vois. Et il va être obligé de faire seppuku parce que c'est comme ça qu'on roule au Japon en 1600. Donc lui-même, et c'est pour ça qu'il dit j'arrive pas à croire que je vais mourir pour Thora Nagel.
Oui, oui, oui,
là,
non,
putain,
mais...
on a perdu. Et en fait, c'est son neveu
qui sauve
sent
le
même le consulter, lui sauve le cul en aiguillant Naga, qui est donc le fils de Thora Nagel, et qui vit dans l'ombre de son père, tu vois. Il est pas vraiment respecté parce que c'est un peu un nepo baby, tu vois. C'est ouais. le fils d'eux, c'est Kendall Roy. Et tout le monde dit c'était juste là où t'es parce que ton daron, c'est ton daron, mais t'arriveras jamais à la cheville de Thora Nagel himself. Et donc il se dit vas-y, je vais faire un truc parce que Ishido, c'est l'ennemi de mon père. Et les hommes d'Ishido, du coup, ennemis. Et
les
gars, ils disent, je peux pas faire un truc, je vais faire un truc. Et du coup, il fait un truc, mais effectivement, ça va foutre la merde.
Ah bah là, ça fout bien la merde.
Pour Yabushige, pour Thora Nagel, pour tout le monde, parce après, que ça se fait up.
Après, on sait pas, peut-être, enfin, tu vois, à cette époque-là, il n'y a pas les téléphones, il n'y a pas les... Ils n'ont pas Internet.
Ouais, il y a ça aussi.
Peut-être qu'ils vont juste croire qu'ils se sont fait attraper par des brigands ou manger par des ours ou je sais pas. Si personne dit qu'ils les ont tués, mais bon, c'est risqué quoi. Mais...
C'est risqué. Et on sait qu'il y a des espions, on sait que Thora Nagel a des espions, Ishido oui. a évidemment des espions, et même au-delà de ça, il y a un truc d'honneur de. Ok, c'est la guerre, c'est une déclaration de guerre, et en fait, c'est un des aspects que j'avais bien aimé dans le livre aussi, c'est que c'était pendant très longtemps, c'est comme quand l'eau elle frémit mais elle boue pas encore, c'est presque la guerre. Et tout le monde est là en mode c'est presque la guerre,
ah bah,
et s'il se passe
ouais.
ça, ça va être la guerre. Et il se passe ça, et ils sont tous genre. C'est la guerre ou pas ? Ils font, c'est presque la guerre.
C'est
va être la guerre, attention.
C'est la réplique finale.
Dernier avertissement, je compte jusqu'à 3, après c'est la guerre. Et du coup, t'as ce côté un peu... tu retiens ton souffle et on va voir à quel point ça explose après cette scène
Bah puis c'est l'attaque.
Qui n'est pas dans le bouquin, je crois.
Réplique finale de l'épisode 4, donc il y a Mariko... Parce que donc il faut comprendre ce moment où Blackthorn, il est en train d'apprendre aux Japonais les canons, machin et tout. Et d'un coup, ça se tire dessus, donc lui, il comprend R... Et il demande à Mariko, est-ce que je dois intervenir ? Est-ce que Mariko, elle dit non, pas du tout. Elle-même, elle comprend pas. Et là, l'épisode se termine sur Mariko qui dit en anglais, This is war, c'est la guerre.
Et oui.
Et du coup, c'est un langage assez universel que Blackthorn comprend quand même. Il y a des mecs qui viennent de se faire éventrer par des boulets de canon.
Ça, il l'avait, ouais.
Ça,
ouais.
il l'avait. Et donc, effectivement, la guerre.
Ça va partir un coup.
Ça va partir, quoi.
Est-ce que t'es au point sur les trois autres régions ? Donc, il y a Ishido et les trois autres. Et leur dynamique, il y a une scène où. Ishido, il a dit, bon, ben cool, on peut tous voter pour tuer oui. Thora Nagel. Ils ont dit, non, mais il faudrait que le Anjin soit tué avant. Et il était là, ça fait chier. Et après, donc c'est Hiromatsu, le vieux général, le second de Thora Nagel, qui allait leur dire, au fait, Thora Nagel, il a démissionné. Et du coup, maintenant, vous êtes plus que 4, mais vous devez
donc
être 5 pour décider.
Vous ne pouvez pas.
Voilà. Est-ce que t'es au clair sur tout ça ?
À peu près, dans les grandes lignes. Je sais qu'en gros, lorsqu'il a quitté le Conseil des Régents, bah, il les a un peu bananés parce qu'effectivement, dans le code des régents, il faut être 5 pour faire une AG, une assemblée générale, tu vois.
Tout à fait. C'est l'unanimité. C'est pas Thora Nagel, il était malade,
ouais.
donc non.
Et bah, comme Thora Nagel, il s'est cassé, bah, il est là en mode bah, je me casse, mais par contre, maintenant vous êtes 4, donc vous pouvez plus voter pour me tuer.
Vous pouvez, si vous vous mettez d'accord, tous les 4 là.
Ouais, mais lui pendant ce temps-là,
ce temps-là, je vais faire ma vie.
Moi,
et
je vais me barrer loin.
Moi, pour vous mettre d'accord, parce que ils sont pas tous alignés. Hein. Ils veulent tous tirer la couverture à eux.
Mais ouais, non, pour l'instant, je suis pas encore trop au clair là-dessus, mais je pense comprendre au fil des épisodes aussi et me laisser porter par le truc. Mais
je pense que c'est juste important d'avoir en tête que deux de ces régents sont catholiques. Deux des 4 régents sont catholiques.
Yes. Ok, ouais.
Celui qui est atteint de la lèpre et qui du coup est défiguré et qui est derrière son voile, lui, il est catholique, bah en partie parce que.
Ah,
voilà,
c'est pour ça.
Ouais, lui en fait c'est un grand guerrier, grand militaire, mais qui est très respecté, mais qui a été défiguré par la lèpre et qui du coup s'est tourné vers la religion catholique de par sa maladie.
D'accord.
Et l'autre qui est catholique, donc lui il s'appelle Ono, et l'autre qui est catholique c'est Kiyama, celui qu'on a vu souvent habillé en rouge avec.
Ouais,
une petite
ouais lui je vois bien. Ouais.
Qui lui est catholique par intérêt financier. Lui il est blindé et il soutient les catholiques portugais parce qu'il a des parts dans le commerce de la soie géré par les Portugais.
Il a bien compris quoi.
Donc et c'est pour ça que Thora Nagel a pu utiliser le fait que Blackthorn soit protestant comme une source de discorde entre eux. Parce que du coup les catholiques disent il faut tuer le protestant et Ishido il est là en fait vous me donnez pas d'ordre. Tu vois, genre on s'est tous mis d'accord pour un truc, c'est Thora Nagel. Donc là, vous êtes là en mode j'exige que machin et tout. Et oh, et aussi Ishido, il est là. En fait, ce protestant, il a l'air de savoir des trucs que sait pas trop faire au Japon et que vous voulez pas trop nous dire. Donc peut-être, moi aussi, j'aimerais bien le garder. Donc voilà, c'est ça la situation. C'est qu'effectivement, ils sont 4, il faut qu'ils trouvent un 5e. Mais c'est d'autant plus compliqué pour eux de trouver un consensus qu'ils ont pas du tout les mêmes enjeux. Et donc, t'as ces deux qui sont catholiques, tout comme Mariko Lay. Qui ont du coup un lien privilégié avec. Donc, il y a. Au niveau des catholiques, il y a le. Donc, il y a Rodriguez, on en a parlé. Mm-hmm. Et il y a Delacroix.
Celui avec son chapeau en Doritos, là.
Voilà, lui c'est Delacroix, ouais. C'est le père visiteur, donc c'est un rôle ouais. très important. Lui c'est un personnage très puissant qui vient régulièrement du Portugal et c'est le chef de du coup.
Il représente la papauté. La papauté.
Ouais, 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 c'est ça. Et c'est le chef de Alvito, tu sais, Alvito c'est le plus jeune prêtre qu'on voit parler avec ouais. Marico. Ouais, ouais. C'est celui qui fait un peu deuxième interprète yes. quand Marico est pas là. Ah, pardon, j'ai touché le bid à Momo et mon pied. Bref. Voilà, donc lui, il y a Delacroix, c'est le père visiteur qui est accoquiné du coup avec le régent qui est catholique. Mmh. Et il y a Ferreira qu'on a vu un peu, qui est le capitaine du vaisseau noir. Qui, okay. lui, ne travaille pas pour l'église, il travaille pour la couronne. Lui, il doit ramener les marchandises à la
lui, il veut juste
couronne d'Espagne.
Lui, il veut rentrer.
Donc il est là, en fait, vos trucs ouais, ouais. de machin, il est protestant, il faut que le seigneur local, il nous donne le pouvoir de naviguer. Moi, en fait, je rentre, j'ai des ordres et je rentre.
Oui.
Et il déteste Blackthorn. C'est lui qui veut l'abandonner sur la galère en partant d'Osaka. Donc il y a quand même ces aspects religieux qui, j'entends que c'est pas ce qui te passionne le plus. Et c'est pas quelque chose qu'on voit énormément, tu vois. On voit pas beaucoup de prières, on voit pas beaucoup de,
ouais.
de cérémonies religieuses à proprement parler. C'est pas comme si on était tout le temps à l'église, machin.
Mais c'est important,
mais c'est
de,
important de le garder ouais. en tête parce que c'est ça qui va définir certains des camps, quand même, et des oui. oppositions, quoi. Et apporter une tension, bah, par exemple, du coup, Marico. On n'a pas beaucoup parlé
la
de Marico.
La scène de cul!
Au-delà de la scène de cul, déjà, s'il te plaît, mettons un peu de respect sur Mariko, qui n'est pas qu'une scène de cul. Qu'est-ce
mais non,
que
mais
tu penses
mais
de ce perso?
Je respecte énormément Mariko-sama.
Ainsi que Sebzez.
Alors non, on n'a pas vu Sebzez, et je n'objectifie pas Mariko. Il s'avère que la seule scène de cul de la série, c'est Mariko, bon.
Non, il y a celle avec Yabushige, là, qui regarde.
J'appelle pas ça une scène de cul, j'appelle ça du malaise.
On a vu plus de tétons, en tout cas.
Ouais, non, mais d'accord, mais faire l'amour pendant qu'il y a un gars qui boue dans
et
un
y a
chaudron...
Il y a ton boss qui te regarde et qu'il y a un gars qui boue dans un chaudron.
Non, 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 c'est pas une scène de cul pour moi, ça, c'est... Non, non. Mariko, non, Mariko, je l'aime beaucoup. Mais je me méfie d'elle, en fait. Je l'aime beaucoup parce que... alors, ça me sort un peu du truc qu'elle parle si bien anglais, je t'avoue. Parce que quel intérêt les. Enfin, où est-ce qu'elle apprend à parler aussi bien.
Bah, c'est Alvito, c'est les portugais,
oui,
c'est le prêtre qui lui a appris.
Mais enfin, je trouve ça genre. Enfin, elle a...
Ça fait des années, hein, vraiment. Elle, genre, elle a été élevée dans l'église catholique.
Ok. Bah, donc du coup, ouais, ok. Okay, okay.
Et elle n'est pas bien vieille, tu vois, elle doit avoir la trentaine grand max. Les portugais et les catholiques sont là depuis plus de 50 ans. Donc c'est possible qu'elle ait, dès l'enfance, qu'on lui ait appris le portugais parce qu'elle était en. Elle a été élevée dans la religion catholique, quoi.
Mais ok, ok, ben ça. Enfin, moi, je me disais que ça faisait quand même un niveau de portugais assez élevé. Mais non, non, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la relation qu'elle a avec Blackthorn. Et en fait, dès le début, il y a un truc de. Bon, frérot, vous allez ken.
Petit regard en coin, quoi. La première scène où ils se rencontrent, où ils se regardent, j'étais là.
D'autant que. Alors, attends, corrige-moi si je me trompe, mais c'est bien son mari à elle qui meurt à la guerre, là.
Buntaro, tout Buntaro, à fait. Ouais. Le mari pas très sympa de Mariko. En fait, c'est le fils de Hiromatsu, le vieux général qui bosse ouais. avec Toranaga, là, qui est hyper. Qui pète la classe, mais son fils, c'est un con. Et okay. du coup, bah, c'était un honneur pour Mariko d'être mariée à ce gars-là, et c'est entre autres pour ça qu'elle est dans l'entourage de Toranaga.
Uh-huh, ouais.
Attends, c'est son fils ou c'est son petit-fils ? Je veux juste pas dire de bêtises.
T'as une page de notes, c'est abusé.
Ouais, non, j'ai une page de notes. Oui, c'est ça. Pardon.
C'est son petit-fils, du coup ?
C'est son fils.
D'accord.
Et Buntaro, qui n'était pas très sympa avec Mariko, c'est lui qui, effectivement, était tout seul sur la jetée ouais. à retenir les assaillants pour qu'ils puissent s'évader d'Osaka. Je dis juste que, selon la tradition hollywoodienne, on l'a pas vu mourir à l'écran. Donc,
C'est vrai qu'il peut revenir. Mais
et ça
ouais.
peut être... s'il y a romance et qu'il repop le bout de son nez...
Ce sera marrant.
L'adultère, c'est réel, quoi.
Bah alors, de là, ce sera... Alors oui, bon, ce sera pas marrant pour Mariko.
Ce sera du drama.
Mais ce sera des grosses barres, t'es là.
Imagine Blackthorn, il le voit arriver.
Mais de fou, mais ta meuf, elle t'a pas vu pendant des années, peut-être. Elle croit t'es mort. Et là, tu reviens, elle se fait retourner par un
Tom
pirate...
Hardy.
Par, non, toujours pas Tom Hardy. Mais,
Tom Hardish.
Ouais, Tom Hardish, j'aime bien. Non, mais. Donc, ouais, en fait, cette romance, pour moi, elle me semblait évidente dès le début de la série, mais elle est plus nuancée et compliquée qu'on pourrait le penser. Parce que, donc, il y a cette scène, je sais plus, c'est dans l'épisode 3 ou 4, où, donc, effectivement, Blackthorn devient Atamoto. Il a une maison et il a, donc, une compagne. Et il est supposé. Enfin, on suppose que c'est avec cette compagne qu'il va avoir des relations sexuelles. Et s'il en a envie, parce qu'il y a tout un truc dans la série aussi de, ils veulent tout le temps le faire baiser, parce que non mais vraiment, mais désolé, mais
oui, y a... pourquoi tu baises pas, c'est
pourquoi tu
baises,
et vraiment ils sont là en mode you need a pillow, et leur pillow étant la femme,
I do not want to pillow near her with her, no pillowing, no.
Et donc il y a un moment où on se dit que peut-être bah ouais, c'est avec elle qui va ken. Et donc il y a toute cette scène où il fait sombre et un petit peu tamisé, on voit pas trop.
Après le bain. Après déjà la scène du bain, ouais. Genre ah non, oui, c'est avant ou après ? Je sais plus. Où elle est là. Est-ce qu'on était à Londres, mm-hmm. après quoi ? On est au oui. spectacle. Ah ouais, après...
Oui, c'est vrai qu'il y a la scène où
on dirait voir la Tamise. Ah ouais, et après, je suis là, bah dis-lui que tu veux lui sucer.
Non mais en plus, toi t'es là, tu viens de te mettre à poil pour la première fois volontairement parce que elle s'est déjà fait mettre
à l'air.
Zgougi à l'air dans la forêt japonaise, t'es là dans les sources chaudes en mode bain thermal, t'es
bonne
trop
scène et tout.
Trop yimbe. Et là, il y a la go, elle arrive en mode oh non, je ne pensais pas que vous étiez nus.
Mais non, elle s'en fout parce que pour eux, c'est hyper la nudité est hyper
oui, non, mais
normal et les bains publics et les bains chauds.
Oui,
et
oui,
tu
mais
vois, c'est mixte. Donc mais c'est plus lui en tant qu'occidental qui est là oh non, je suis tout nu.
Bah oui,
elle est là.
Elle aurait pu venir à n'importe quel autre moment et bon, après voilà.
Non, c'est culturel, Valentin.
Dans la même journée. Et donc, bref, il y a cette scène après le soir dans la maison de Blackthorn, où on voit qu'il a une relation sexuelle avec une meuf qu'on suppose d'abord être Fujisama parce que tout était présenté comme ça et ils ont un peu ce, même au début ce regard malicieux machin et on se rend compte qu'en fait dans la donc lui il se lève le matin et il dit bonjour à Mariko et non attends
une ok il y a une femme qui vient le rejoindre la nuit et on pense que c'est Mariko.
Lui il sait que c'est Mariko.
Lui il pense que
il
c'est
est
Mariko.
Convaincu que c'est Mariko.
Nous on pense que c'est Mariko, ça a l'air d'être Mariko.
Ouais.
Ok, mais il fait sombre.
On sait pas.
Voilà.
Et donc le matin, il se lève et il y a Mariko qui est là, quoi. Il bouffe des céréales et tout, tranquille. Et Mariko, il lui dit oh, comment ça va? Et lui, il fait
bien dormi.
Bon, je suis plutôt bien dormi, puisqu'on a ken la nuit dernière, quand même, souviens-toi. Et Mariko, elle fait ah, donc j'imagine que la compagne qu'on vous a signée vous convient. Et lui, il est en mode attends, mais c'est dans qui que j'ai mis mon Scoogie là? C'est dans elle ou dans toi? Et donc il y a ce.
Alors, c'est même pas ça, c'est même pas. En fait, ils s'attendent pas forcément à ce qu'il couche avec sa concubine. Ils ont okay. bien compris que ça a pas l'air d'être son truc. Et ils savent aussi que sa concubine, rappelons que Fujisama, elle vient de perdre son mari
oui.
et son bébé de seppuku. Donc
oui.
Bon, elle a peut-être pas la tête à ça, même si elle le ferait s'il le voulait, parce que c'est son rôle. Et que. Ça lui donne une place, comme dit Mariko dans la société. Mais Mariko, elle dit plutôt, on vous a envoyé une courtisane. Donc,
ouais.
En fait, parce que c'est aussi le rôle de la concubine de satisfaire le besoin de pillowing de son mmh, homme,
ouais, ouais.
Pas forcément elle-même, mais en lui trouvant des concubines à son goût.
Ouais,
etc.
Genre la logistique.
Et
quoi.
Donc là, Mariko, elle fait pas genre c'est Fujisama qui était là la nuit. Elle fait genre
la courtisane.
Deux,
ouais.
On t'a commandé une courtisane
okay,
cette
ouais.
nuit, on s'est dit que ça te ferait plaisir, donc ah, t'étais content. Et lui, il est là.
Je sais
mais...
quand même que c'était toi, hein. C'était
oui.
quand même bien toi, quoi.
Oui, oui.
Et
elle est là, chut, chut, dis pas.
Mais non, je l'aime bien, Mariko. En vrai, je l'aime bien. Elle est. Je pense que ça va être l'un des persos les plus intelligents et stratèges de la série. Ça se voit. Et en plus, elle a cette carte à jouer que, bah, elle parle portugais. Donc il y a des moments où elle peut savoir des choses et mal les traduire aux autres japonais et personne ne le saura. Mm. Donc,
oui, elle protège Blackthorn parfois quand il fait des impairs et tout.
Ouais.
Elle est là. Ok, je vais pas traduire exactement ce que t'as dit. Je vais traduire autre chose parce que c'est pas malin ce que tu viens de dire.
Je vais pas traduire bouffeur de riz. Non.
Ouais,
non.
Ouais.
Mais ouais, non, il y a ce truc où effectivement c'est marrant de la voir se lier à lui parce que bah, ça va créer des enjeux politiques et des enjeux en plus. Donc ça, j'aime bien.
Ouais, j'aime bien aussi leur romance, même si j'avoue que premier épisode, j'étais pas. Je l'ai vu venir parce que voilà,
ouais, ouais,
j'étais
ouais.
là. Bon, j'imagine, ok. J'imagine qu'il faut mettre une romance. Je suis pas sûre que ça va être mon aspect préféré. C'est toujours pas mon aspect préféré, mais c'est moins pire que ce que je craignais. Et bah, le côté, ouais, l'aspect des deux philosophies. En fait, ils déteignent un peu l'un sur l'autre, tu vois. Elle s'occidentalise un peu et il s'orientalise
oui.
un petit peu à son contact. Et je trouve ça chou de le voir essayer d'apprendre et d'absorber ce qu'elle lui transmet. Et après, en termes de personnages féminins, j'aime beaucoup Mariko parce que bah, déjà, elle sait se battre. C'est une samouraï aussi.
Oui,
au même
ça,
titre que les, en fait, les femmes sont samouraïs au même titre que les hommes. Et on la voit se battre avec un genre de lance. Donc, j'étais contente qu'elle ait une scène d'action. Et elle est très forte. Et j'aime beaucoup son côté, sa vie intérieure. Donc, c'est
ouais.
elle qui explique dans cet épisode à Blackthorn le concept de la clôture 8 fois refermée. Où elle dit, en gros, nous au Japon, on a un endroit secret en nous, tu vois. L'idée, c'est de se retirer
ah, oui,
derrière
ça,
la
oui,
clôture
oui.
où
ouais.
on est seul et où rien ne peut nous atteindre. Et ne vous trompez pas de par notre politesse, notre rigidité,
oui.
nos courbettes. Peut-être que quand vous êtes en train de nous parler, on est à 1000 km d'ici, derrière notre clôture. Et je pense que Mariko, elle est beaucoup derrière sa clôture.
Ah, Mariko,
et ça lui donne
ouais.
Une... On sait aussi qu'elle a vécu une tragédie. Pour l'instant, on avait juste un flashback d'un homme qui a l'air un peu plus âgé. Bataille, flamme. Elle dit qu'elle a subi une grande injustice. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais bon, il y a du bagage, ouais, quoi.
Et puis, c'est un perso qui reste encore mystérieux. Et à quel point est-ce qu'elle va devoir rester loyale à Toranaga ? Enfin, tu vois, c'est...
Loyale à Toranaga, loyale à Blackthorn, loyale à l'Église catholique. Tu vois, c'est vrai. Est-ce que je suis... En gros, elle a trois cœurs, quoi. Elle a le cœur de samouraï.
Ouais.
Elle a le cœur amoureux. Et elle a le cœur religieux.
Le cœur et l'argent du cœur.
Et le cul de la crémière.
Mais ouais, et en plus, il y a ce truc où c'est vrai que c'est un arc dont on n'a pas forcément parlé dans leur relation, mais Blackthorn en fait va essayer, enfin, c'est pas qu'il essaye activement, mais il tente de faire comprendre à Mariko que en fait, regarde, les cathos, c'est un peu des connards, pourquoi tu serais pas protestante comme moi ? Et il tente de lui prouver aussi qu'il n'y a pas une forme de chrétienté et que voilà.
Oui, et que les Portugais catholiques ont aussi un intérêt au même titre que les protestants et la couronne britannique sur le Japon, et qu'on n'est pas juste là pour faire des voyages et des échanges culturels, très clairement. J'aimerais bien qu'on parle un peu de l'action, parce que quand même, c'est lui, il y a de l'action, et toi, je sais que t'aimes bien la bagarre, t'aimes bien l'action et tout. Qu'est-ce que tu penses de l'action ? Comment elle est filmée ? Est-ce qu'elle est lisible ? Est-ce que tu kiffes les scènes d'action ? Donc, on a de l'action navale,
il y a eu beaucoup d'action navale, bataille, ouais.
Épée dans la forêt, là.
Ça c'était pas. Ouais, alors c'était de l'action, mais c'était de l'action surprise. Genre,
c'était une embuscade.
C'était une embuscade, donc il n'y a pas eu tant de bataille. C'était unilatéral, ils se sont juste fait décapiter, quoi.
Bah non, c'est là où Mariko, etc., elle s'est battue, et en fait, Blackthorn, etc.
Ah oui, c'est vrai. Et oui, mais
sur la route en sortant d'Osaka.
C'est, tout à fait, oui.
Ils se sont fait attaquer de nuit
par
des bandits envoyés par Ichigo, même s'il ne l'admet pas, pour essayer de les empêcher d'atteindre le bateau.
Non, mais alors cette scène-là est très bien, d'autant qu'en plus t'as tout l'aspect combat d'archer contre combat de mêlée, et donc c'est une scène de nuit et tu vois les flèches enflammées qui fusent à travers les arbres. En vrai, ça c'est vraiment très cool.
Et c'est une scène de nuit et tu vois ce qui se passe, ce qui est quand même pas dans toutes les séries. Les scènes de bagarre la nuit, voilà.
Il y a aussi les scènes effectivement de bataille navale que moi je trouve carrément cool, et au-delà des sans forcément parler de bataille navale, tout ce qui se passe sur les bateaux, je trouve que c'est bien monté, c'est bien filmé.
Yes.
C'est déjà, c'est intéressant aussi parce que tu vois les différents types de bateaux. Les bateaux japonais ne sont pas les bateaux occidentaux. Et on le voit aussi parce que Blackthorn, déjà, Blackthorn, il découvre qu'il y a des mecs qui rament. Et il est là en mode, mais attends, mais...
Du coup, vous avancez même s'il n'y a pas de vent ?
C'est pas des esclaves ? Non, c'est leur métier, ils sont samouraïs et tout. Ah d'accord, très bien, c'est chaud, ils sont payés et tout. Ah d'accord.
Ils rament bien.
Ah, ils rament bien.
On dit de ramer, ils rament.
Ah bah, ils sont polis, hein, donc ça...
Ils sont en rythme.
Ah bah ouais, et puis ils sont à l'heure.
Les cheveux, ils sont bien coiffés.
Tu peux laisser ta pagaie sur une table, personne vient te piquer ta pagaie. Bref.
Non. Petit contexte, non mais après les gens ils savent pas. Petit contexte, si jamais vous vous interrogez sur pourquoi on répète tout le temps que les trains sont à l'heure et que tu peux laisser des trucs sur la table, c'est on ironise sur le cliché des gens occidentaux qui disent que tout est mieux au Japon, notamment parce que au Japon les trains et les métros ils sont à l'heure. C'est... Au Japon il y a pas de criminalité, tu peux laisser ton téléphone sur la table et aller prendre ton café, personne va te le voler, blablabla. Bla, bla.
C'est le cliché de ton cousin Maxime qui va passer une semaine au Japon et qui est là. Non mais c'est une autre culture. Hein,
non mais c'est vraiment mieux. Quoi.
C'est vraiment mieux. Puis, ils ont vraiment tout dans le cœur, quoi.
On m'appelle les bandeurs de Japon.
Ouais. Mais bref.
Donc Blackthorn devient petit à petit un bandeur de Japon.
Mais de fou, il devient, oui,
il
en fait.
Il va revenir en Angleterre, il est trop chiant.
Ah, mais il va ouvrir un sushi shop.
Sushi fusion.
Oh non, horrible. Et donc il y a ces scènes de bataille navale et de bateaux là. Il y a même la course-poursuite, effectivement, en bateau, je la trouve très bien. Les scènes d'action sont en fait, c'est pas pour l'instant de la grande bataille, c'est pas du Minas Tirith, c'est pas des trucs avec des dizaines et des dizaines
d'archers.
Non,
c'est pas des armées qui s'affrontent.
Il y a par exemple
parce qu'on est avant la guerre.
On est avant la guerre. Après, je pense à partir ça en couille, mais pour l'instant, c'est effectivement assez en retenue et en embuscade. D'où justement dans l'épisode 2, je crois, la scène de l'assassinat, où quand Ichido réalise que Blackthorn est chez Toranaga. Il mandate un assassin qui est en fait la femme de ménage de Toranaga dans la maison, et donc cette meuf là d'un coup hop se met à sortir un couteau et tente d'assassiner, on croit qu'elle va assassiner Toranaga, mais en fait elle ne vient pas pour Toranaga, elle vient pour le barbare.
Anjin-san.
Elle vient pour Anjin-san. Et même cette scène-là, elle est vraiment très bien, je trouve.
C'est ouais, une... elle est trop cool.
Scène d'action très cool. Et en plus, la meuf est badass de fou. Enfin, ouais,
elle est en mode Hitman.
Ah, elle s'en bat les couilles. Hein. Ouais, vraiment, c'est... Ouais. Elle est là pour un objectif, c'est tuer le gars. Et il y a tout ce truc où je trouve qu'ils ont amené dans les scènes d'action pas mal le côté moral et le côté code d'honneur qu'on associe généralement à cette époque du Japon et même aux Japonais en général, tu vois, d'un point de vue militaire. Il y a ce truc, par exemple, où quand le mari de Mariko,
Buntaro
sur la jetée, se fait encercler et on suppose qu'il est mort, il y a tout ce truc où, en fait, il est encerclé par 50 gars qui, vraiment, ils ont jusqu'à... Il lui met une pichenette, le mec est mort. Ils sont 50, il est 1, c'est très
simple. Les chances sont pas dingues. Alors non, cela dit, en vrai, c'est un samouraï entraîné. Et face à lui, c'est pas mal de bandits, de villageois. Oui. Donc il y a un peu un côté...
Il peut les contenir. Mais,
ouais,
mais...
C'est 15 émeutiers contre un flic en tenue de CRS, tu vois.
Mais ils ont aucune raison d'attendre, de ne pas... Enfin, ils n'attaquent pas, parce qu'il y a un moment où ils se rendent compte que le mec est seul et le bateau part sans lui. Le bateau l'abandonne et ne peut pas le récupérer. Et donc il dit au revoir à sa femme en la regardant. Et
non, il dit au revoir à Toranaga.
Il dit surtout au revoir à Toranaga. Et après, un petit peu vite fait, on croit.
Ah oui, t'es là toi, salut.
Voilà, il dit au revoir à la meuf sur le bateau là. Durant cette scène là, les autres, les bandits, les brigands, ne l'attaquent pas. Et donc il y a tout ce truc d'honneur. Et pareil avec l'assassin, qui vient qui vient tenter de tuer Blackthorn. Il y a tout un truc où à la fin, quand elle sait qu'elle elle se fait serrer et que c'est terminé pour elle. Bah, il la tue pas directement, tu vois, il l'éloigne un peu, enfin, c'est, ouais, je trouve ça bien. En fait, je trouve que les combats racontent des choses, et c'est pas juste des combats qui, on va se taper sur la gueule, ouais.
Oui, ça change un peu de, justement, tout ce Moyen-Âge occidental qu'on a l'habitude de voir. Bah là, c'est d'autres chorégraphies, c'est d'autres styles de combat, c'est d'autres armes, et ça explique aussi pourquoi ils utilisent relativement peu les mousquets, les canons, etc. Il y a déjà qu'ils en ont pas énormément.
Ah oui, les guns aussi.
Et il y a un peu cette idée de... c'est d'ailleurs une des victimes des coups de canon dans l'épisode 4 le dit avant de mourir. C'est pas comme ça que les samouraïs se battent. Tu te bats avec un homme au corps à corps, pas de loin, en le tuant sans qu'il comprenne même pas ce qui lui est arrivé. Tu
vois. Considère ça comme de la triche, quoi. Tu vois, c'est...
Bah, comme de la lâcheté, voilà. C'est pas honorable.
C'est pas une façon. Momo, va-t'en du clavier. Allez.
Ah, désolé pour l'intrusion du chat. C'est pas honorable. Voilà, donc, c'est aussi ça qui explique qu'ils ont pas un usage des armes à feu aussi développé que d'autres pays à l'époque.
Mais donc non, moi les scènes d'action pour l'instant j'aime bien et j'attends d'en voir plus parce que je sais qu'elles vont arriver.
Ok.
J'imagine qu'elles vont arriver et ouais, un peu curieux du côté gore et déjà on a vu un mec bouillir, on a vu des mecs décapités. Un peu curieux de voir comment ça va être représenté dans les batailles, mais non saucé aussi par le côté action, même si moi pour l'instant c'est vrai que dans la série c'est plus le côté politique qui m'intéresse et l'action c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais non c'est plus la politique pour l'instant qui se joue vraiment, quoi.
Yes. J'ai reçu une question de notre cher Justin,
oh,
un très bon ami et passionné du Japon qui ne comprend pas, alors je vais vous lire sa question, elle est en caps lock. Et Blackthorn, d'où tu veux aller chercher tes potes et ton bateau alors qu'on te file un statut d'Atamoto, une petite femme et 240 fucking koku par an? Et je me suis dit, est-ce que tu sais ce qu'est un koku?
Ah, alors bah non.
Eh bien, un koku, c'est une ration, c'est la dose de riz ou l'équivalent de la dose de riz qui nourrit une personne pendant un an. Et en gros, c'est comme ça qu'on calcule les salaires. C'est avec un koku, c'est une dose de riz pour qu'une personne puisse vivre pendant un an.
Attends, après, mais lui, coup, il a 240 koku? Mais c'est beaucoup de rations de beaucoup de riz.
Oui, il est riche. C'est comme s'il avait 240 pièces d'or.
Mais attends, mais il pourra même pas
mais
manger
pas.
Tout ce riz.
Il est là, I don't want your damn cuckoos. Lui, il veut rentrer en vrai, il est là.
Non, mais oui.
En fait, je suis toujours un otage là. Je suis dans l'hôtel 5 étoiles, mais je suis toujours un otage.
Bah,
et c'est pas.
Il a raison. Et c'est une façon de. Oui, d'accord, il a une belle chambre. Il a l'hôtel 5 étoiles de Disneyland, mais il reste quand même prisonnier, tu vois.
Bah oui, clairement, voilà. il peut pas partir tant que Toranaga le laisse pas partir. Et il commence à s'en rendre compte.
Le coco, c'est une ration de riz.
Ouais.
Ah, d'accord. Putain, mais ils font quoi tous ce riz? Genre, enfin.
Mais non, mais c'est pas une.
Il l'entrepose où?
Mais non, mais lui, il a pas 240 genre tonnes de riz. C'est avec un. C'est la mesure.
T'as l'air saoulé.
Je vais chercher. Non, mais je me dis, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à l'expliquer.
C'est
mais
la
tu
me...
peux
c'est
avoir un
de...
coucou en or, tu vois. Et c'est l'or qui suffirait.
Un
coucou à...
égale la valeur de une.
À acheter assez de riz pour nourrir une personne pendant une année.
Mais pourquoi il leur file pas directement le riz?
Bah parce que des fois, c'est pas pratique d'avoir des kilos de riz à transporter, par exemple. Des fois, t'es là, mais non, mais je vais juste à Osaka m'acheter des manteaux. J'aimerais bien avoir ce riz, mais être plus transportable. Et ils sont là, connais-tu la monnaie ? Et voilà.
C'est vrai.
Ils sont là pour qu'on fait pas du troc, tu vois.
C'est vrai.
Ok. Putain. Un coucou de riz pèse environ 150 kilos.
Ah, mais attends, mais.
C'est pas mal.
Il est maxi riche.
Le coucou permettait de mesurer la richesse et le nombre de personnes à la disposition des seigneurs qui cherchaient à étendre leurs terres et leurs pouvoirs. En effet, la forme usuelle pour employer un samouraï ou un serviteur était de lui allouer une rente en koku en guise de salaire. Le koku était donc une mesure de la force humaine, militaire ou civile, qu'un seigneur pouvait mobiliser.
D'accord, oui.
Voilà.
C'est ok, ouais. Mais donc, effectivement, il est blindax. Il est blindax.
Ah bah, il est royal, c'est le roi du pétrole. Hein. Mais il en a marre de manger des sushis et du natto, ah, oui, qui est donc du soja fermenté qui goûte dans le dernier épisode, là. Et il a un peu envie de rentrer voir sa bonne reine. Elisabeth.
Oui.
Victoria, Elisabeth. Elisabeth, je crois.
Il a plus envie de voir la bonne reine que la bonne femme, quoi.
Oui.
J'ai l'impression.
On arrive à la fin, je pense, de ce débrief. Est-ce que tu as quelques prédictions ou choses que tu as envie de voir dans la suite ? Donc là, on s'arrête, comme on l'a dit, sur un moment choc de l'épisode 4, avec peut-être cette attaque qui va. Cette attaque en traître qui va précipiter la guerre. Est-ce que tu as des prédictions, des envies ? Bien sûr, je garderai ma poker face en tant que personne qui a lu le livre. Cela dit, je me rends pas compte à quel point ils vont coller au livre ou s'en éloigner, même pour les gros trucs de l'intrigue. Donc on verra.
Alors moi, il y a deux choses. Déjà, j'ai très envie. J'aime bien toutes les scènes où il prend la peine de. Tu vois, par exemple, il y avait cette scène dans le bateau où il dit au samouraï de ramer et il a appris le mot en japonais pour dire ramer. Et je trouve que les scènes où il est commandant de troupes, enfin où il commande les japonais. Je les trouve trop cool. Et donc là, j'espère qu'il y aura une scène où il va commander les canonniers japonais, okay. Notamment pour se défendre face au gars d'Ishido. Il y a une préparation paiement dans l'épisode 2 ou 3, là. Et celle-là, je l'oublie pas. Je sais qu'elle va arriver avant l'épisode 10. Tu sais, c'est Toranaga, je crois. Il a rêvé une armure, là. Et il l'a faite. C'est son armure de cœur en mode. Bah, il a vraiment son armure.
Il a fait fabriquer l'armure qu'il a vue en rêve. Ouais, non, à quel point c'est
connard.
Cool.
Non, un connard.
Moi, je rêve que j'ai un train à prendre et que je suis en retard.
Non, mais moi, je peux pas. Moi, cette nuit, j'ai rêvé qu'il y avait un insecte dans le bureau. C'est ça mes rêves.
Tu m'as dit, j'ai rêvé qu'il y avait un insecte comme un pancake, mais avec des ailes de papillon.
Et moi, je fais des rêves de merde.
Je rêve d'une armure de samouraï.
Mais lui,
trop classe.
Il peut se lever. Et mais il a encore les crottes dans les yeux là, il a encore la semoule oculaire et il peut se lever et dire à quelqu'un dont c'est le métier, frérot, j'ai rêvé une armure, fabrique-la moi. Et
peut-être même qu'il l'a dessiné lui-même, tu sais.
Mais non, il dessine pas lui, c'est il a dit à quelqu'un de bref.
Donc t'as hâte de voir Toranaga se battre.
Et je pense qu'il va mourir dans cette armure.
Ok.
Je pense qu'il va mourir dans cette armure. Je pense qu'il va à un moment, il va devoir la mettre et il va mourir. Et c'est ça ma et donc là à ce moment... et aussi il y a ce truc de pour l'instant. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la série s'appelle Shogun. Et c'est intéressant parce que ça va sûrement être amené au fil du temps. Et voilà, notamment quand ils vont aller, je pense, au camp de Macao. Mais pour l'instant, l'aspect, la shogunerie n'est pas encore pleinement arrivé. Et j'ai hâte de ça. Parce que, ouais, on craint le Shogun comme cette espèce de...
Je crois que Shogun, c'est au-dessus de Taiko.
Ouais. Et c'est
Et y en a pas depuis longtemps.
Il y en a pas depuis longtemps. C'est censé être le pacificateur des barbares, un truc comme ça. Et il me semble que après, plus tard en fait, le shogun est devenu au-delà de ça, il est devenu dans l'histoire militaire japonaise le gérant des armées, quoi, le dictateur militaire. T'avais le
chef des forces armées.
T'avais l'empereur de Jure qui était
le ministre de la défense.
Plus que ça.
Michel Alliomari un peu.
Un peu. Non, là tu m'énerves.
C'est une série sur Michel Alliomari Shogun.
Non mais donc ouais, j'attends de voir cette armure là popée. J'ai étrangement pas envie que ça y est, j'ai oublié son nom.
Tu m'as fait douter. Yabushige.
Yabushige. Maintenant, j'ai pas envie de le voir mourir. Alors qu'à l'épisode 1, j'avais très
bien
envie
sûr,
de le voir.
On l'adore.
Mais maintenant, j'ai envie d'aller boire du saké avec lui. Et surtout, ouais, j'ai hâte de l'évolution de Black Thorn parce que je pense qu'il va prendre en galon, il va prendre en bagou. Là, notamment, il porte l'épée, ce qu'il ne faisait pas au début et
la double épée.
Et les Japonais sont choc barre de fou parce qu'ils sont en mode frérot, mais d'où tu portes l'épée
Il est Hatamoto. Hatamoto doit avoir ses épées.
Il y a trois jours, il savait même pas ce que c'était un Hatamoto.
Il y a trois jours, on lui versait du poisson dessus, donc bon.
Mais donc ouais, j'ai hâte de voir la place qu'il va prendre dans la bataille et j'adore voir la relation de confiance évoluer entre lui et Toranaga. Voilà, j'attends le moment où on va recroiser Velasquez, là, Rodriguez, parce qu'en vrai, il est trop bien et je sais qu'on va le recroiser à un moment. Et ouais, j'ai un peu envie que les catholiques, ils... tu vois, j'ai un peu envie qu'on leur tape dessus, quoi. L'autre avec son chapeau en Doritos noir, là, lui, j'ai un peu envie qu'on lui casse un bras, tu vois.
Il y a une autre préparation paiement, c'est que maintenant Fujisama, elle a deux flingues, parce qu'elle a pris et elle garde les flingues de Blackthorn. Et moi, je suis là, j'oublie pas que cette meuf, elle a rien à perdre, flingues.
Le jour où elle va apprendre que c'est Mariko qui la ken.
Ah non, mais ça, elle le sait. Ouais,
je sais.
Elle s'en fout.
Je sais, je rigole.
Je sais pas, je me rends pas compte à quel point c'est confus pour toi, cette intrigue. C'est ok, bah, je ne vais évidemment pas dire mes prévisions puisque j'ai lu le livre, mais c'est peut-être intéressant par contre de te dire, Shogun, c'est une mini-série. Saison 1, c'est le livre. Il n'y a pas de saison 2.
Ah,
donc
mais non.
L'intrigue va être bouclée. Donc, il est possible que Blackthorn meure à la fin, qu'ils partent pour toujours rentrer en Angleterre.
On ne sait pas.
Oui, mais ils ont confirmé qu'il n'y aura pas de saison 2.
Oh non.
Donc, mais ce qui ne veut pas dire... En fait, il n'y aura pas de suite à cette histoire. Après, dans ce qui a fini par être appelé la Asian Saga, la saga asiatique, qui est donc tous les bouquins écrits après Shogun par l'auteur
James Clavell.
Puisque le premier avait cartonné, ça se passe à différentes époques du Japon, donc c'est pas genre Toranaga et Blackthorn la suite, mais ils ont aussi eu beaucoup de succès, donc ils pourront faire un peu une série d'anthologie. Tu vois, Shogun saison 2 sera peut-être une autre genre 1700, un autre seigneur,
American
intrigues.
Horror Story du Japon, quoi.
Voilà.
Ouais, ouais.
Ou The Crown, un petit peu, qui se passe sur des décennies différentes. Donc voilà, il y aura pas de saison 2 à cette intrigue, ce qui veut dire que dans 6 épisodes, on a fini.
On a fini,
on saura le destin de tous ces personnages, ça va être cool.
Oh là là, c'est dur. Ah oh, mais attends, mais il peut se passer trop de choses. 6 épisodes, c'est pas beaucoup d'épisodes. Oh. Ok, je suis.
Ça va être cool.
Je suis hooked.
Alright, et bah écoute, merci Nodius, merci mon cher Valentin d'avoir fait ce débrief Shogun avec moi.
Trop content et trop hâte des débriefs suivants. Franchement, c'est une série que j'aime bien et j'aime trop en parler avec toi. J'ai fait mes devoirs en plus, j'ai vraiment pris des notes et j'ai essayé de
9 onglets.
Après, 9 onglets, mais 2 utiles. Hein. soyons honnêtes. Il y avait genre 7 fois un onglet. Quand j'ai ouvert l'onglet sur le Harakiri, j'avais cliqué sur 8 trucs. Donc, bon. Mais c'est trop bien. Et Maté Shogun, si ça vous intrigue et si ce qu'on a essayé de vous véhiculer là et de vous dire là, ça vous intrigue, n'hésitez pas. Même si c'est un petit peu intimidant au début, obstinez-vous un peu. Et ouais, c'est vraiment trop cool, quoi.
Yes, et du coup, on va essayer de vous donner rendez-vous toutes les semaines pendant les 6 épisodes de Shogun qui restent pour des débriefs qui seront pas forcément aussi longs, puisque là on avait quand même 4 épisodes à rattraper, mais qui sortiront sur ce flux de podcast. Vous pouvez retrouver Nodius sur les internets, les liens sont dans la description, et vous pouvez me retrouver sur Twitch, en podcast, sur Patreon, dans le Book Club et le K, qui sont respectivement un book club et des ateliers d'écriture que j'ai co-créé avec Kalindi Rampfel, et chaque lundi au micro du Fab et Mimi Show. Voilà, tout est à retrouver dans la description. Des gros bisous et sayonara.
Ah non, mais non, tu peux pas.
Trop tard, je l'ai fait.
Tu peux pas dire ça aux gens. Non.
T'as commencé avec Tokyo Drift, frère.
Non, mais j'ai pas commencé le podcast en disant Aligato Osaimas, tu vois. Enfin, genre.
J'ai l'entro.
Coupe,
ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.